Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes rhododendrons, mes clarinettes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, mais je me suis disloquée la hanche vendredi et je souffre énormément, franchement, je boite. Je crois que ça s'est pas trop vu sur scène. Je suis allée voir un masseur tibétain vendredi, mais j'avais encore plus mal en sortant parce que je crois que j'ignorais un peu ma douleur avant. Et là, ça l'a en partie libérée, en même temps, ça m'a sauté à la gueule. Waouh! J'ai appelé en urgence un ostéo hier chez moi, samedi, pour une séance à domicile, ça m'a coûté une fortune. J'ai hâte d'être en vacances. Je voudrais l'être à partir du 17 décembre, mais je joue encore les 23 et 30. Envoyez-moi des gens la veille de Noël et la veille du réveillon. Puis je pars quand même en vacances le 24 avec ma mère à Venise et du 31 décembre au 10 janvier en Thaïlande avec ma pote Julie Albertine. Je sais, pas terrible pour la planète, mais j'ai pas bougé depuis Los Angeles cet été. Il y a des connards qui prennent l'avion tous les week-ends. Moi, je claque ma thune dans ces voyages et j'en ai bien besoin. Mais j'ai moins de thunes car vous avez dû le remarquer, il n'y a plus de pré-roll, j'ai même plus le temps de négocier des sponsors avec des marques. Donc vous avez intérêt à acheter et offrir mon bouquin à Noël, hein, je compte sur vous. Car pour vous, je maintiens ce rythme de l'épisode hebdomadaire et aujourd'hui, nous recevons l'incroyable humoriste québécoise Virginie Fortin, dont j'ai vu le nouveau spectacle mercredi dernier à la Nouvelle Scène. On en parle dans l'épisode ainsi que du Fringe Festival à Édimbourg, de l'économie des specials dispo sur YouTube plutôt que Netflix. On s'attarde sur le père de Virginie Fortin et on se compare, Virginie et moi. Elle est nostalgique de l'enfance, moi non. Elle est extrêmement pudique, moi pas trop. Elle ne fait pas sa thérapie sur scène, moi si. Elle fait de l'humour d'observation quand je penche plus vers l'autodérision-destruction. On se questionne sur les liens entre intime et universel, comment parler de la société à travers soi. Bonne écoute.
Chou, t'es trop beau.
Oh là, il est content d'avoir tous ces compliments. Est-ce que d'habitude...
Moi, mais... Il n'est pas se poser.
Il a envie d'être sur toi. D'habitude, mes amis se foutent de sa gueule parce qu'ils le connaissent depuis longtemps et il a grossi, tu vois.
T'es gros, mais j'adore.
Il est gros, mais il est grand. Il est grand. C'est un grand chat.
C'est un grand chat. Quel âge, non ?
Ah bah, il a plus de 10 ans. Hein.
Oh, c'est un vieux bonhomme.
Ouais, c'est un vieux bonhomme. Mais il a rien perdu de sa vivacité.
Non. Excuse-moi.
Non, je t'en prie. Ah bah, mais il est trop content, lui. Bah, attends. Il est complètement hétéro.
Jamais aux hommes.
Non, jamais.
Oh mon chat, tant d'amour que je t'aime.
Okay. Wow. Alors bon. Je t'écris un petit poème, Virginie.
Merci. Puis merci d'être venue d'ailleurs hier. Merci trop.
Merci à toi d'être venue jusque chez nous. Mais quel bonheur, justement. Le spectacle de Virginie Fortin ne ressemble à aucun autre. C'est de l'humour philosophique où Virginie va jusqu'au fond du questionnement de nos existences. Pourquoi le temps ? Pourquoi la nostalgie ? Pourquoi le langage ? Pendant 1h30, Virginie se demande avec une drôlerie incroyablement personnelle si nous sommes bien là, au même moment, les uns en face des autres. Ou si tout n'est qu'une simulation, un jeu. Virginie se définit comme abasourdie plutôt qu'engagée, comme humoriste d'observation qui s'excuse auprès des enfants qu'elle n'aura jamais. Virginie n'est pas à une contradiction près et cela fait son charme. Elle est très stressée mais ne se met pas la pression, s'en fout un peu de nous plaire. Elle ne veut pas réussir dans la vie mais bien réussir sa vie. En tout cas, grâce à elle, hier soir, j'ai réussi ma soirée, j'ai ri, j'ai réfléchi, je me suis dit que le russe c'était trop beau et que le jeu, la simulation était plutôt bien foutu pour permettre une Virginie Fortin trop forte.
Hey, là, wow, c'est genre... Il faut que je... C'est merci, premièrement. J'ai toujours de la difficulté à décrire mon spectacle quand on me demande c'est quoi, mais je pense que je vais juste lire ça, mais avec un petit peu moins... un peu plus d'humilité, là, vu que si on dirait que moi, je peux pas dire ça à propos de moi-même.
Ah ben, si mais... tu veux, non, mais c'est très... En plus, c'est à la troisième personne, donc je te l'envoie.
Oui, mais en plus, c'est ça, je vais avoir l'air de me prendre pour quelqu'un d'autre, de parler de moi. Virginie Fortin est une humoriste philosophe. Mais merci.
Ben non, vraiment, je le pense à 100%, c'était vraiment une soirée incroyable. Et toi, est-ce que tu as senti des différences entre le public parisien et le public québécois?
Hier soir, non, pas vraiment. En fait, on dirait que le spectacle à date dans la tournée, mais quoi que les spectacles se sont tous bien passés là, depuis que je suis arrivée en Europe, mais hier, je sentais vraiment que c'était le plus proche de ce que je reçois chez moi au Québec. Puis on dirait que peut-être que c'est le public, mais j'étais aussi, moi, dans une énergie où, à la nouvelle scène, c'était pas la première fois que je jouais. Puis on dirait que je suis arrivée là avec aucun stress, juste envie de jouer, une espèce de sentiment de « Ah, oh, je connais ce lieu-là ». Des fois, quand je suis dans un nouvel endroit, il y a plein de paramètres que j'ai de la difficulté à visualiser, puis j'ai de la misère à m'imaginer sur scène. Mais là, hier, c'était comme « Ah, je connais ça ». J'avais le sentiment profond que ça allait bien se passer. Fait que, je sais pas, je suis arrivée avec une énergie de « j'ai le goût de jouer », puis je pense que les gens sont arrivés avec une énergie de « j'ai le goût de voir le spectacle », tu sais.
Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, vraiment, je pense que t'avais beaucoup de fans, en fait, dans la salle.
Je sais pas d'où ils viennent, les autres, là.
Mais... Bah si, des Français qui te connaissent et qui, résultat, sont trop contents d'avoir une humoriste qui n'habite pas dans leur pays, et je pense qu'il y a une énergie peut-être, ouais, un peu particulière, comme quand tu vas voir, je sais pas, Ricky Gervais qui vient, enfin, il y a un peu...
Je suis trop contente que ça fasse cet effet-là parce que ça a vraiment fait que j'ai une belle soirée.
Ouais,
j'ai plus beaucoup de voix d'ailleurs.
T'avais déjà un peu la voix cassée, mais ça c'est Montreux.
Mais ça c'est non, ah, ça c'est moi ça. Ça c'est des nodules à l'âge de 19 ans. On m'a opéré aux cordes vocales.
Comme Céline Dion?
Exactement comme Céline Dion. Céline a eu des nodules aussi. Je savais pas.
Je crois qu'elle a eu un truc.
Elle doit bien mieux s'occuper de ses cordes vocales que moi. Moi, j'avais une voix pas du tout rauque, pas du tout... pas très grave non plus. Ah. À 19 ans, un jour, je faisais beaucoup de spectacles d'improvisation dans les bars. Puis les matins, je me réveillais à fun. Pas genre... Oh, c'est une voix sexy. Ouais. Non, c'est comme, où est-ce que mon débat?
Ah ouais?
Et là, va voir l'ORL, l'otorino-laryngologiste, qui me dit, oulé, aïe, aïe, il y a des nodules.
Ah.
Des gros, à part de ça. Et il a fallu qu'on m'opère et j'ai pas parlé pendant 10 jours.
OK.
Je me promenais avec un petit cahier de notes qui disait, j'ai eu une opération aux cordes vocales.
Tu mangeais de la glace?
Pardon, là, je me suis encore plus enrouée la voix. Mais non, je mangeais pas de glace. Ça a été. Mais pas parler pendant 10 jours. Et puis, la première fois que j'ai pu parler, j'avais une voix cristalline. Elle était magnifique. Elle sortait comme de la soie. Il y avait pas de... Mais au bout de 2 ans, la voix est redevenue grave et rauque.
Mais elle est belle, ta voix.
Merci infiniment.
Non, moi, j'adore.
Ben, moi, j'aime aussi. C'est une voix très radiophonique.
Ouais.
J'essaie, à chaque fois que je parle dans un micro, j'essaie de parler... un peu plus grave.
Ben, ça marche. Parce que donc là, ce spectacle, tu l'as créé au Québec et tu l'as tourné un peu partout dans le monde. T'es passé où avec?
En fait, non, celui-là, je l'ai créé au Québec et puis je l'ai joué qu'au Québec.
D'accord.
Puis ici, là, mais non, j'ai terminé de l'écrire jusqu'à la fin, en gros guillemets, de la pandémie.
Ouais.
À l'été, pas celui-là, mais l'autre d'avant. Genre, au mois d'août 2021, j'ai fini d'écrire le spectacle. J'ai commencé les rodages. Puis j'ai fait ma première au Québec au mois de mars. Et là, c'est la première fois que le spectacle sort du Québec. Mais c'est mon précédent spectacle, Du bruit dans le cosmos, que j'avais beaucoup joué. J'avais joué à Édimbourg, au Fringe à Édimbourg, le gros festival d'humour. J'étais allée jouer une version adaptée en anglais.
Wow!
Yes, of course!
Incroyable, génial comme expérience.
Je suis allée au Fringe 3 ans d'affilée. Moi, c'est pour n'importe qui fait de l'humour, du spectacle, quoi que ce soit, je lui recommande d'aller expérimenter le Fringe, ne serait-ce que pour le voir.
Bien sûr.
Je pense que ça ressemble. Je suis jamais allée à Avignon ici, mais je crois que c'est c'est genre 5 fois gros comme ça, là.
C'est très gros, mais en fait, Avignon, c'est surtout le théâtre. Le ouais. stand-up est en train d'arriver à Avignon. Tu veux que je t'avance
ton micro? Non, ça va. Non, pardon, je me demandais à quelle hauteur.
Oh, bah, le plus proche, c'est bien, mais là, t'es parfaite.
Le plus proche, parfait.
et Avignon, le stand-up est en train d'arriver, mais que depuis... 2-3 ans, tu vois. Ouais. Sinon, c'était très théâtre. Et je crois que Édimbourg, moi, j'ai très envie d'y aller. J'en rêve, en fait. Je pense que là, tu me rappelles que je vais tout de suite prendre mes places pour l'été prochain.
Mais ouais, absolument.
Il faut absolument que j'y aille parce que ce qu'il y a à Avignon, tu sais, toi, t'es déjà allée au Festival d'Avignon?
Non, je suis jamais allée. On m'en a que parlé, en fait.
Ce qui est un peu particulier, c'est que t'as le in et le off, mais c'est vraiment très scindé. C'est-à-dire ouais. que t'as vraiment le in, mais qui est un théâtre public très, comment dire, expérimental, un télo un peu difficile d'accès, tu vois. C'est des pièces qui peuvent durer 12 heures, oui, tu vois, okay. des trucs. Et puis, t'as le off, et dans le off, t'as quelques bons spectacles, mais t'as aussi du divertissement très à l'ancienne, très ringard, très costumé, mais voilà.
À Édimbourg, c'est ça, mais fois 1000 aussi. Je veux okay. dire, il y a toutes sortes de...
Ouais.
J'ai vu, genre, j'ai tout vu, là. J'ai vu du stand-up, j'ai vu du théâtre, j'ai vu du stand-up dégueulasse, j'ai vu du sketch de personnages pas bons, j'ai vu une comédie ouais. musicale ratée, mais en même temps, ça côtoie mes humoristes préférés, puis qui, eux, qui présentent leur spectacle dans de vraies grandes salles ou dans des plus petites salles, mais super réputées, genre le Stand, qui est le Comedy Club d'Édimbourg. Tout devient une salle de spectacle. À Édimbourg, pendant le Fringe, un sous-sol de restaurant est devenu une salle de spectacle. Ça donne lieu à soit des affaires incroyables ou ouais. soit des trucs complètement ratés. Mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté du Fringe.
Complètement. Et mais il y a aussi cet aspect-là aussi à Avignon où tout est transformé en lieu de théâtre. Et tu dis tes humoristes préférés. Moi, je suis hyper curieuse de tes influences. Quand je te voyais sur scène hier soir, j'ai quand même pas mal pensé à Sarah Silverman. Je sais pas si elle en fait partie.
Je ne connais pas du tout. Je connais Sarah Silverman, mais j'ai jamais vraiment regardé ce qu'elle fait.
Parce qu'elle a un petit peu... Elle se touche le visage un peu comme toi.
Ah oui, c'est vrai. Ça, je peux comprendre dans son podcast des fois, ouais, je comprends, c'est vrai. Mais ça, c'est plus fort que moi.
Ouais, mais
ça,
c'est très joli. Non, c'est marrant, c'est joli.
Je mets les deux mains dans le visage quand j'en reviens pas, comme, mon Dieu. Mais non, mes humoristes préférés depuis quelques années, ceux que je suis assidûment, sont anglais, en fait. Stuart Lee, c'est mon humoriste préféré. Quand je l'ai découvert, comme si c'était moi qui avais découvert Stuart Lee, mais quand son humour est arrivé dans ma vie, ça doit faire 6-7 ans, ça a complètement changé ma perception de ce qu'on pouvait faire en stand-up. Ensuite, grâce à lui, j'ai découvert sa femme, que je ne veux pas réduire à son statut d'être la femme de Stuart Lee, parce que c'est Bridget Christie qui... je pense que c'est la meilleure. Incroyable. Ah ouais, j'ai lu et j'ai vu Bridget Christie au Fringe. Incroyable, elle est tellement cool. Et puis, il y a Daniel Kitson qui est en fait l'humoriste préféré de Stuart Lee. Donc, j'ai entendu parler de Daniel Kitson par Stuart Lee, mais lui, c'est vraiment 100%... c'est comme un gars qui n'existe plus vraiment dans les médias. Il fait que de la scène, il fait que du... Mais il vend tous ses billets en 24 heures parce qu'il a réussi à cibler son public qui sont maintenant des fans
absolus.
Ouais. Il produit tellement de choses géniales. Au Fringe, une année, je suis allée le voir. Il présentait son show de stand-up, mais il présentait aussi son solo de théâtre.
OK.
C'est un génie, en fait. Puis il est drôle, mais il est accessible. Puis il y a genre un Bandcamp, là. On peut pas trouver ces trucs sur YouTube. Vraiment, ils n'existent pas vraiment en Internet. Il faut... Genre, tu peux commander un vinyle. Wow. T'es sur sa mailing list. Tu sais, il est comme super, précieux. Super niché.
Ouais.
Là, genre. Mais après, il annonce un spectacle en Australie. Ça vend au complet.
Wow.
Ses spectacles au Fringe, il fait... Fait que Daniel Kitson, c'est vraiment... Ouais. Je pense que Stuart Lee, c'était mon préféré, mais c'est devenu Daniel Kitson en premier, Bridget Christie en dessous et Stuart qui m'a donné accès à tous ces gens-là.
Non, j'irai découvrir parce qu'en France, finalement, on connaît assez peu les humoristes anglais parce que finalement, on connaît les Américains par Netflix.
Exact. Ouais. Mais moi, je trouve que les Anglais
sont encore plus forts
d'avance sur les Américains.
OK.
Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai toujours eu un faible un peu pour... Mais pas tous les Anglais non plus. Il y a des humoristes anglais que je trouve qui font des affaires un peu hacky, là, qui sont un peu de base, un peu facile. Mais Bridget Christie, Stuart Lee, Daniel Keaton, c'est la Sainte Trinité là, dont je ne peux pas...
Wow.
Je pense que c'est les seuls dont je consomme encore un peu l'humour. Je regarde très, très peu de stand-up.
D'accord. Ouais. De manière générale, t'en consommes... Sur Netflix, par exemple, t'es abonné, tu regardes les specials qui sortent?
Je regarde très rarement les specials qui sortent. J'ai tellement peur de regarder un special, puis dans 2 ans, avoir l'impression que j'ai eu une bonne idée.
Et que c'était...
Pour réaliser que quelqu'un d'autre l'avait fait. Ouais, puis que c'est mon cerveau qui s'en rappelait plus. Ouais, je regarde très peu les specials, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui m'intéresse. James Acaster, un autre anglais aussi, a ses specials sur Netflix, j'aime beaucoup.
Ouais.
Je suis allée le voir à Montréal cet été, j'ai adoré, là, genre...
OK.
C'est de ces personnes qui font que, quand tu vas voir leur spectacle, tu te dis, ben, à quoi ça sert que moi j'essaye de voir? Ça existe déjà, le meilleur, tu sais. Genre, c'est ça qui me font sentir.
Bah ouais, je veux bien te croire. Moi, le au départ, je connaissais... Enfin, au tout début, avant de me lancer dans le stand-up, je connaissais que Louis C.K. Et donc, résultat, je m'imaginais jamais pouvoir faire du stand-up tellement je trouvais ça fort. C'est parce que j'ai vu un spectacle moins bien, mais pas mal, que je me suis dit, ah, peut-être.
Je suis capable, ouais, c'est ça.
Mais je suis dégoûtée de pas avoir vu ton premier spectacle.
Ouais.
On peut le retrouver quelque part, il existe?
Il existe en ce moment, il est sur la plateforme de Radio-Canada. Mais Radio-Canada va le mettre à la télé, je crois, au printemps. Et à ce moment-là, il sera peut-être plus accessible. Bon, Radio-Canada a la fâcheuse tendance de bloquer ses contenus pour l'international. Mais après, rien qu'on... Je veux dire, ça prend juste un VPN. Puis,
Ben ouais, grave.
Oh ouais, c'est ça. Ouais, je veux pas encourager les gens à faire ça, mais en même temps, je veux les encourager.
C'est bien pratique, bah si, carrément. Ouais. Ah ouais, ta prod peut pas négocier avec eux de le mettre aussi sur YouTube. Non, ils voudront jamais.
Ça va être au bout de 5 ans, là, je pense. Ah, y a comme une limite de... Moi, au départ, je voulais rendre ma captation gratuite, accessible à tous, mais comme on vit vraiment dans un monde capitaliste où le but de chacun, c'est de faire de l'argent, c'était mieux, finalement, qu'on rembourse la captation en vendant à un diffuseur. Mais moi, mon but, c'était vraiment que ça soit open source, puis que tout le monde... Je voulais qu'elle existe, puis que les gens puissent la voir, mais bon.
Après, si t'as pas de... Comment dire? Si t'as pas de soucis pour remplir ton nouveau spectacle, c'est en effet... Je sais que parfois, il y a des humoristes... Il y a pas mal d'humoristes américains aussi qui ont mis leurs specials en entier sur YouTube parce qu'ils ont des chaînes et qui tentent aussi de monétiser comme ça.
Ouais.
Et aussi parce qu'ils sont pas suffisamment connus pour être sur Netflix et que résultat, le fait de mettre de ce contenu leur permet de vendre des tickets pour le prochain.
C'est
voilà.
Mais c'est tout le temps ça, là, la démarche là, d'exister sur Internet pour être connu dans la vie. Mais bon, moi, ça va, là. Je voulais juste que le spectacle... En fait, je voulais que le spectacle existe pour m'en rappeler, parce que c'est un spectacle dont je suis fière, puis j'étais contente du Bruit dans le cosmos, c'est mon premier spectacle. Je voulais vraiment qu'il y ait une captation, genre, pour la postérité, puis pas la postérité, je veux dire, pour ma petite postérité
bien
à moi, là, pour que ça existe, puis que j'ai un souvenir... Mais là, il existe. Il est sur la plateforme web de Radio-Canada, mais éventuellement à la télé, puis éventuellement, sans doute, quelqu'un va le hacker puis le mettre sur YouTube, mais ça sera pas moi, je...
Ah, ouais. Bon, bah, on prendra un VPN.
Ouais.
Et du Bruit dans le cosmos, ça, tu le crées en quelle année?
Excellente question. Du Bruit dans le cosmos. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé le stand-up en 2013.
Okay.
Ben, 2011, disons, puis plus activement 2013-14. En 2013, j'ai gagné en route vers mon premier gala juste pour rire, une émission de télé au Québec. 2014, je suis partie en tournée avec Mariana Mazza, une autre humoriste québécoise. Ça, c'était ma première tournée, un 45 minutes. On faisait chacun 45 minutes.
Okay.
C'était comme un double tête d'affiche. Ensuite, termine la tournée en 2016, puis 2017, je commence à travailler sur mon premier spectacle solo, mais...
OK.
En fait, j'y travaillais déjà...
C'était des petits bouts
que je ramassais sans m'en rendre compte. Puis ensuite, j'ai présenté une heure, un peu de test, dans un festival au Dr Mobilo Aquafest. Ça s'appelle un festival d'humour alternatif qu'on a créé avec les amis humoristes à Montréal.
Génial!
Je suis allée présenter cette heure-là au Fringe à Édimbourg. C'est devenu la base de Du Bruit dans le cosmos. Donc, j'ai commencé les rodages de Du Bruit dans le cosmos en 2017. Et puis, 2018, c'était la première de Du Bruit dans le cosmos. Puis, je l'ai roulé jusqu'à 2020, genre juste avant le début de la pandémie. Il me restait 7 dates de tournée, peut-être. on a fini par annuler les dernières parce que j'étais comme, je vais pas attendre 2 ans de faire les 3 dates de mon spectacle qui me reste.
Ouais.
Je m'en rappellerai plus. Je veux passer à autre chose. J'ai envie d'écrire un nouveau spectacle.
Ouais. Ouais. Mais alors, ce qui se passe, c'est que donc t'as un premier spectacle que mine de rien, t'as des blagues très anciennes que tu rôdes depuis des années. Et d'un coup, c'est pas trop dur de dire, OK, comment j'ose me lancer dans quelque chose que j'accouche beaucoup plus rapidement en termes de temps?
Ouais, c'est vrai que ça a été vraiment plus rapide en termes de temps. Puis ça, comment on fait, je sais pas. C'est la pression, le stress, puis c'est être terrifiée. Puis je pensais pas que j'y arriverais. Mais après, tu sais, on s'en rend pas compte, je pense, de l'expérience qui rentre non plus, tu sais.
Ouais.
Et moi, du bruit dans le cosmos, c'est mon premier spectacle. J'avais un petit spectacle avant, mais tranquillement, on dirait que j'ai acquis les outils pour être capable d'écrire plus vite, puis de développer mon style, puis de savoir ce que je veux dire. Puis même si mes sentiments, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de temps pour l'écrire, le cerveau, c'est quand même fascinant. Parce que moi, j'existais, là, j'existe dans la vie, puis je pense à des affaires, je pense à des idées, je prends des notes. Il y a des trucs récurrents dans ma tête qui me reviennent. Je ne suis pas en train d'écrire
mais ton
réellement,
cerveau les retient,
mais mon cerveau est en train d'écrire. Tu sais, je suis en train de. Fait que quand j'ai dû écrire mes sentiments vraiment plus rapidement, ça a été beaucoup de stress. Genre, j'appelais mon agent, puis j'étais comme, il faut dire à Juste pour rire que je suis pas prête pour le 23 août. Pourquoi? T'sais, genre, j'avais perdu le contrôle de moi-même. Puis quand le 23 est arrivé, le 23 août, la date du premier rodage, puis ça s'est bien passé, là, j'étais comme, je suis capable de tout faire, hein, finalement. Mais ça a été vraiment un stress. Sauf que je crois vraiment que l'expérience rentre, puis il faut juste se dire tout va bien aller. C'est une nouvelle structure de travail qui arrive juste parce que je suis meilleure.
Ouais. Il y a un truc, c'est marrant quand tu parles de ça, de ton doute, ça se ressent aussi dans le spectacle et je trouve ça assez fin. C'est la façon que tu as de parfois te moquer de toi-même, de décrire la loose, mais aussi de te sauver en fait et de te clamer quoi. Tu vois, quand tu dis ça, cette blague, j'ai trouvé que c'était une bonne blague.
Mais c'est parce qu'il y a des blagues que j'aurais dû laisser tomber parce que la réaction est pas là. Mais moi, je peux pas abandonner.
Elle te les aime.
Oui. Puis je suis ce genre d'humoriste. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont, puis je veux dire, chapeau bien bas, là, qui vont comme y aller pour l'efficacité tout le temps. Puis genre, ah oh là, ça arrive pas, là, je la tue, cette blague-là. Moi, je peux pas. Quand il y a une blague que je suis convaincue, je la fais pour moi, là. La blague de la nostalgie dont tu parles dans le spectacle, il y a des soirs où ça marche très bien, mais quand ça marche pas du tout, je sens le besoin d'expliquer. Puis après, ça m'a fait trouver une nouvelle blague par rapport à je suis nostalgique du moment où j'avais pas encore eu l'idée de la blague de la nostalgie.
Ouais, j'adore.
Mais il y a de ces blagues-là que je préfère presque briser le rythme puis perdre un peu les gens pour comme aller au bout de moi, ma vérité.
Ouais.
Que d'enlever la blague pour faire comme « Ah, mitraillette de gag, ce spectacle! » Tu sais,
Ouais, non, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout... T'es très... connecté avec ce que t'as sincèrement envie de dire. Il y a plein de loops et il y a des blagues où justement c'est pas la première fois, mais c'est quand on rentre dans ton système de pensée et qui se développe et qui se développe et qui se développe et qui se développe, que d'un coup on explose de rire sur je sais pas si je peux dire une blague, mais là tu rejoutes pas tout de suite en France.
Non, c'est ça.
Ça va pas trop spoiler
en France, non.
Parce qu'il y en a une qui m'a fait vraiment, mais j'ai explosé de rire, mais je pense que c'était aussi l'état d'accumulation que tu avais créé au-delà de la blague qui était très drôle. C'est quand tu parles de tes enfants qui n'existent pas, d'abord il y a une fille, c'est Marguerite ou Mathilde?
Marguerite.
Ensuite il y a Mathias, et puis Mathias, tu décris, c'est le premier homme profondément féministe.
Oui, en fait c'est le seul qui peut s'auto-proclamer féministe parce que on sait qu'il n'a jamais été problématique, parce qu'il n'existe pas, c'est la seule façon.
Et ça, vraiment, dans le spectacle, en fait, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai explosé de rire, mais c'est parce que la blague est drôle en soi, mais c'est parce qu'en fait, avant, t'as tiré un fil quand même hyper intellectuel, quoi, où on réfléchit, quoi. On est vraiment, enfin, c'est quand même méta, quoi.
Ouais.
Un peu, un peu de physique quantique, quoi. T'es là, parce que tu joues avec des concepts, quand même, tu
oui,
vois.
Et donc, que ce soit drôle, mais.
Mais c'est très drôle. Mais résultat, même, c'est tellement intelligent que parfois on est soulagé de rire, tu vois. On est là, déjà, on essaye de te suivre aussi. Parfois, moi, je me disais, j'espère que je ne veux pas rater un bout, je ne vais pas perdre le fil. Et puis, donc, sur le. Voilà, sur les êtres, etc., qui n'existent pas. Et d'un coup, je me raccroche à un truc très. Comment dire, terrien contemporain, oui. Et ça me fait exploser de rire.
Tant mieux, mais je suis contente parce que ce commentaire-là, souvent, il passe un peu inaperçu.
Ah ouais!
Mais hier, ça a bien été compris, mais c'est parce que je crois qu'au Québec, en ce moment, on est un peu dans une phase où beaucoup d'hommes qui ont été très féministes, de façon très frontale, finalement, on se rend compte que c'était pas les bons porte-parole.
Ah ouais.
Donc, ça fait quelques années que je suis un peu dans une phase dans ma vie où quand un homme me dit qu'il est féministe, je suis un peu sur mes gardes. Je me dis, j'aimerais mieux qu'il soit pro-féministe.
Qu'est-ce que ça cache?
J'aimerais mieux qu'il soit comme...
allié.
Ouais, exact. Parce que t'as trop proclamé féministe. Laisse-moi juger d'abord, tu sais. Et puis donc, c'est ça, de dire que Mathias, mon fils qui n'existe pas, c'est le seul homme qui peut s'auto-proclamer féministe parce qu'on sait qu'il n'a jamais été problématique comme il n'existe pas. Ouais, exact.
Non, mais c'est incroyable. Mais alors, tu sais, je pense que ça fait beaucoup rire en France parce qu'il n'y a pas encore d'hommes féministes en France, vraiment. En fait, il n'y en a pas du tout, tu vois. C'est pas... On est beaucoup moins woke au Canada.
Je m'en suis rendu compte.
Ah ouais. Les Français sont encore premier degré, très macho sur plein de trucs. Et les femmes l'acceptent, tu vois. C'est un truc, un mec féministe, il y en a quelques-uns.
Ouais.
Tout petit, alors qu'en effet chez vous ça fait déjà plusieurs années.
Ah oui, nous on est rendu à maintenant les mecs féministes sont finalement peut-être très problématiques aussi, là, on est
Vous avez 20 ans d'avance. Non clairement.
Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même, on est un peu plus en avance là-dessus, puis je le remarque aussi en tant qu'une femme en humour, là. C'est-à-dire que moi au Québec parfois j'avais l'impression que c'est encore inégal, puis il y a des injustices, il y a des petits commentaires désobligeants, puis des petits commentaires. Mais là, vraiment, après, moi, au Québec, je jouis d'un statut particulier, c'est-à-dire que comme je suis connue, on dirait que maintenant, je ne suis plus une nouvelle femme en humour. Tu sais, je sais pas si une jeune femme qui commence en humour est vraiment complètement émancipée et libre de ses petits commentaires, puis si c'est le fait que je suis devenue connue, que maintenant j'ai le respect qu'on octroie à un homme d'emblée. Mais je pense sincèrement qu'il y a eu vraiment des grandes améliorations au Québec. Puis c'est vrai qu'en arrivant ici, juste aussi parfois dans le vocabulaire, je trouve qu'il y a des termes vraiment misogynes qui sont encore utilisés sur scène. Puis j'ai vu même des passages. J'ai vu des passages où je me dis, genre, de gens qui font ça avec confiance et fierté. Puis je me dis, mais au Québec...
C'est mort.
Ça passerait pas. Ça passerait pas.
Ah ouais.
Mais bon, après, je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux en France aussi. Puis déplacer, c'est plus difficile de déplacer un gros paquebot qu'un petit bateau. Là. Puis, ouais, mais c'est vrai.
Ah,
c'est,
tu veux dire, il y a beaucoup d'humoristes.
Non, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup. Nous, on est comme une micro-culture. On dirait que. Moi, il y a des gens dans un groupe. Moins ça prend de temps à prendre une décision. Là. Genre, vous êtes 3 personnes, vous choisissez le restaurant, ça va prendre moins de temps que si vous êtes 12. J'ai comme l'impression que c'est juste ça, là, c'est de faire avancer les choses. Mais je sais pas.
C'est le milieu du stand-up particulièrement ici en France parce que justement, moi, je viens du milieu du théâtre et du théâtre public, les spectacles de 12 heures, etc., Et là, c'est un peu comme au Québec, c'est-à-dire que c'est très queer, très féministe, on se fout à poil, etc., machin, beaucoup de gays, de lesbiennes et tout. Le milieu du stand-up, c'est beaucoup plus...
très hétérosexuel, homme, je sais, Mais c'est en train de changer.
Oui. Doucement, mais après, après, ce qui se passe, c'est que c'est en train de changer, mais tu sens des bandes assez fermées, ça se mélange pas beaucoup, tu vois. T'as la bande du Sarfati et t'as la bande d'humoristes queer qui vont jouer à la Mutinerie. Mais tu vois, la Mutinerie, si tu peux pas, tu peux venir dans le public, mais je crois pas que tu puisses monter sur scène si t'es hétéro, tu vois. Après, c'est normal qu'il y ait des lieux qui se créent en réaction,
ça,
tu vois.
C'est normal,
Mais résultat, moi, en tant qu'hétéro-hétérophobe, je suis reçue nulle part. J'exagère. Mais c'est il y a des la nouvelle scène là où c'est un peu justement un lieu du milieu quoi et elle va créer Jessie un comedy club mais il y avait le Barbès comedy club où t'as dû jouer.
Oui, j'avais joué.
Ouais, et là ce qui n'est plus là aujourd'hui mais Shirley avec tendait vers ça.
Mais je pense que ce sont des choses qui prennent du temps là, de toute façon après c'est sûr que les hommes hétérosexuels, ils trouvent pas les mêmes choses drôles que les femmes homosexuelles ou ben en fait oui, il y a des vases communicants, il y a des lieux communs mais je pense que après des années à faire rire d'eux, les communautés queer à faire rire d'eux par le discours un peu mainstream de l'homme hétérosexuel qui tourne tout au ridicule, les femmes sont connes, les gays, tu sais. Après, je pense que c'est comme normal qu'ils se créent des safe spaces de même, des lieux où est-ce que justement ils ont envie de reprendre le pouvoir là, puis de rire de moi-même en tant que femme qui a déjà été problématique là, genre la femme blanche hétérosexuelle. Moi, je m'en rendais pas compte là, que je faisais partie du problème, puis j'en fais encore partie, mais de tellement vouloir plaire au mainstream, que d'adopter un discours d'homme hétérosexuel blanc là, presque, ouais, pour me rendre compte que oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux vraiment dire, je veux pas...
Mais après, dans ton nouveau spectacle, t'as quand même tout un passage, justement, sur la question des enfants, sur le fait que...
Ouais.
Une femme qui dit sur scène qu'elle veut pas d'enfants, c'est encore aujourd'hui...
C'est super tabou. Mais après, je me dis, est-ce que ça va être seule quand on a 68, genre, tu sais?
Ah ouais, grave. C'est sûr que ce qui se dégage de ton spectacle, c'est que t'as cette espèce d'univers intérieur hyper riche et qu'on se dit, mais bien sûr, en fait, c'est il n'y a pas assez d'une journée pour être dans la tête de Virginie Fortin, quoi. Puisque une idée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ton spectacle s'appelle Les Sentiments, parce que c'est plutôt lié à la pensée qu'aux émotions.
Ah ouais, tu trouves?
Bah après, j'ai trouvé ça justement super osé et original, parce que moi, je suis persuadée que de toute façon, les idées qu'on a, elles naissent souvent de ressentis, d'émotions.
Ouais, exact.
Mais encore un truc peut-être très français, en France, c'est assez séparé. T'as l'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle, et on a tendance à mettre d'un côté les cartésiens et de l'autre côté les littéraires, où en plus toi tu es littéraire, ouais, les langues, etc. Et donc, résultat, pour les sentiments, c'est le sujet de l'amour, quoi. Les sentiments, c'est associé. Alors ouais, que toi, tu fais un spectacle sur les idées qui s'appellent les sentiments, quoi.
Mais moi, je pense que l'être humain n'est que sentiment. Les cartésiens, ils ont des sentiments dont ils ont tellement peur qu'ils deviennent super rationnels pour s'approcher des machines. Genre, tout le monde est... Je pense que les humains, on n'est que sentiments. Après, mon spectacle s'appelle Mes sentiments parce que c'est un peu un... C'est un peu une espèce de clin d'œil, c'est-à-dire à l'humour en général où tout le monde vient sur scène parler de soi, moi. Puis je me disais, moi, je vais juste être honnête puis je m'en viens parler de moi. Puis j'ai l'impression que n'importe quelle œuvre artistique, littéraire, musicale, théâtrale, ça part d'un sentiment. N'importe quelle œuvre peut s'appeler Mes sentiments, parce que ce sont mes sentiments par rapport à ce que je suis en train de... Je veux dire, on dirait que je trouvais que ce titre-là pouvait tout englober. Et puis, comme ça partait de mon sentiment principal, qui est la nostalgie, le temps, pour moi, c'est ce qui me fait vivre le plus de sentiments puis d'émotions. Puis de... Donc, je voulais appeler ça Mes sentiments parce que je trouvais que je pouvais parler justement de tout. Puis après, mes idées, elles sont toutes créées par des sentiments. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que les humains, on est juste des genres de petits paquets d'émotions à marcher, puis à essayer de les gérer, puis à trouver des trucs à faire pour gérer nos émotions. On n'est pas...
Ouais, mais, c'est clair. C'est en fait, ouais,
on se réveille avec. Ouais, je sais pas.
Mais c'est mais parce qu'on se sent assez forte quand même et pas assez. C'est pas en contrôle de tes émotions, mais en les regardant, en essayant de comprendre. Et il y a pas ce que je trouve très fort aussi quand à la fin tu parles de c'est quoi réussir dans la vie, ouais, et réussir sa vie.
Ouais.
Et puis tu finis par donc encore développer une, voilà, tirer les fils d'une pensée, et puis tu dis, voilà, c'est ça finalement, le temps, c'est occuper le temps.
Oui.
Et puis à la fin, t'es là, mais bon, si vous avez passé une bonne soirée, tant mieux, c'est super. Si vous vous êtes ennuyé, c'est pas grave.
Oui, il fallait juste passer le temps.
Ouais, il fallait passer le temps. Et puis même, tu dis, je m'en fous, Ouais. Et ça aussi, j'ai trouvé ça mais tellement osé, fucking badass.
Le
quoi.
Pire, c'est que c'est pas vrai que je m'en fous là. Genre, je veux vraiment que les gens aient passé un bon moment. Ouais. C'est ça mon souhait le plus cher. Mais c'est comme je suis en train un peu de dire qu'on est dans un jeu puis qu'il y a rien d'important. J'essaie juste d'enlever de l'importance à ce que je dis, tu sais, puis d'enlever de l'importance à ce qu'on fait, puis d'enlever de l'importance à juste pour enlever le stress au final. Mm. Tu sais, c'est juste pour enlever le stress de tout parce que, je veux dire. Moi, il y a des moments où je suis tellement stressée, puis là, j'essaie d'écouter ce que je dis moi-même dans mon spectacle, à dire, mais c'est pas grave. Puis j'en parlais dans mon premier spectacle, de me rappeler qu'on est genre sur la planète Terre, puis on flotte dans l'infini, puis on sait pas pourquoi on est ici. Donc, j'essaie moi-même d'écouter ce que je dis dans mes spectacles pour pas être stressée, tu sais. Donc, quand je dis du plus profond de mon cœur, je m'en fous de comment. Il y a une part de. Je le dis pour y croire, tu sais. J'aimerais tellement m'en foutre pour de vrai, mais c'est pas vrai que je m'en fous. Sauf que, ultimement, je m'en fous. Parce que, ultimement, quand je vais mourir, je vais pas être encore accrochée au sentiment de déception que j'ai causé un soir dans une salle de spectacle à Paris si les gens ont pas aimé ça. Tu sais, je vais plus m'en rappeler. Là. C'est plus important dans le grand spectre des choses de la vie, tu sais. Fait que, en tout cas, le temps arrange les choses au final. Là. C'est ça aussi, c'est dans le spectacle. Mais je m'en fous pas pour de vrai. Mais j'aimerais tellement m'en foutre.
Ouais. Peut-être que ce qui te permet de t'en foutre, c'est que tu dis, en effet, t'es connu aussi, donc c'est pas. Peut-être la notoriété aide à prendre un pas de côté. C'est-à-dire que t'as plus. En tout cas, au Québec, t'as rien à prouver. Tu vois, ta place est là.
C'est encore drôle, ça, parce que moi, j'ai toujours l'impression que. Moi, j'ai tellement. Tu sais, c'est fou parce que tu soulignes, je dis je m'en fous, mais moi, je veux pas décevoir les gens, jamais, là. Même si c'est un jeu, puis c'est la vie, puis on s'en fout, puis on n'est pas stressé dans le présent, je veux pas décevoir les gens. Je me mets une certaine pression, puis je trouve que, justement, dans ne pas être connu, c'est cool parce qu'on peut encore causer la surprise, tu sais. On a l'arme cachée de la surprise. Dans être connu, il y a des attentes. Après ça, ces attentes-là, elles viennent quand même avec. Les gens, ils aiment d'emblée ce que tu fais, tu sais. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai peur que les attentes soient trop hautes et que les gens soient déçus. Mais parfois, les attentes avec le fait d'être connu, ça fait que les gens, ils t'aiment plus. T'as besoin de moins faire pour qu'ils aiment ce qu'ils voient, là. Mais j'essaie de pas me perdre là-dedans puis de pas tomber dans la facilité. Mais le pire, c'est que oui, je suis connue au Québec, mais je pense que je fais quand même un style d'humour qui ne plaît pas nécessairement à tous, t'sais, qui est quand même un peu champ gauche, là, un peu. Donc à chaque fois, je suis comme oh, j'espère que j'ai frappé la balle dans le bon champ gauche que les gens venaient voir. Ouais.
Et ce qui t'a fait connaître là-bas, c'est vraiment l'humour ou tu dis aussi que tu joues, tu tournes dans des films, dans des séries, c'est ça qui.
Mais c'est drôle parce qu'au Québec, ça doit faire peut-être 8 ans que je vis de ce métier-là. Mais il y a des gens qui pensent que je suis qu'humoriste, il y a des gens qui pensent que je suis comédienne. Puis il y a des gens qui savent que je fais les deux. Mais j'ai commencé comme humoriste surtout en faisant des. Ben, je faisais de l'improvisation d'abord. Moi, j'ai commencé à la Ligue nationale d'improvisation. Mais là, bon, j'étais pas connue, là. J'étais dans le chandail de hockey à faire des sketchs dans des petites patinoires. Puis ensuite, l'humour, là, c'est vraiment le stand-up qui m'a fait un peu plus connaître. Mais ce qui a vraiment fait que je suis devenue plus connue, c'est la télé. Puis c'est la fiction, en fait, parce que. Après avoir commencé ma carrière en humour, j'ai eu des auditions pour des rôles dans des comédies dramatiques, dont un dans une série qui s'appelle Trop, qui a vraiment été super bien accueilli au Québec. Puis ça a duré 3 saisons, puis les gens ont adoré. Donc ça m'a vraiment fait. Je pense que ça a ouvert la grande porte du showbiz, là. Et puis ça a vraiment changé un peu la dimension de ma carrière. Puis encore aujourd'hui, je continue de jouer dans des fictions. Puis de jouer comme comédienne tout en parallèle en gardant la tournée en humour, tu sais, on dirait que je jongle avec les deux, puis ce qui fait que c'est ça. Mais il y a de moins en... je pense que la plupart des gens qui me connaissent maintenant savent que je fais les deux, mais il y a des gens pour qui c'est flou. Ils pensent que je ne suis que comédienne ou ils pensent que je ne suis qu'humoriste. Ça, j'adore.
C'est génial ce que tu décris parce que tu vois, ça aurait aussi du mal à se mettre en place en France qu'une humoriste qui devienne connue, on lui offre un rôle dramatique. C'est en train un petit peu d'avoir lieu avec Blanche Gardin, mais ça reste plutôt des rôles comiques, même si c'est dans des films d'auteurs de qualité. Mais on lui a pas je crois, encore, à ma connaissance, proposé de rôle dramatique, tu vois.
Mais en fait, moi, le premier rôle, c'était vraiment aussi une c'était dans une comédie dramatique avec des grandes parts de drame, mais des bonnes parts de rire. Mm. Puis j'ai joué dans mon premier drame, là, cet automne, qui était que drame. Mais après, je pense que je comprends, là, les gens qui font rire, on s'imagine pas qu'ils peuvent nous faire pleurer, mais je pense quand même que la ligne entre un éclat de rire puis un éclat en sanglots, elle est vraiment mince.
Clairement.
Puis c'est juste qu'ils se rencontrent chacun du côté de leur frontière, mais elles sont vraiment pas loin, tu sais.
Ouais.
Mais ouais, moi, je pensais pas non plus perso être capable de jouer du drame à ce point-là. Mais je pense que j'avais une pudeur aussi. Moi, j'ai grandi en me disant, moi, je suis drôle, hein, je fais rire les gens. Mais après, quand j'étais petite, je voulais être actrice aussi. C'était ça, mon... Mais quand j'ai commencé l'humour, je me disais, ah non, finalement, c'était les blagues. Mais là, maintenant que j'ai auditionné puis eu des rôles dans des trucs vraiment touchants puis vraiment bien écrits, puis vraiment où je me sentais à l'aise d'aller dans ces zones-là d'émotion sans me regarder jouer, là, tu sais, juste... Mais là, on dirait que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre ces deux trucs-là. Mm. Puis même, j'ai animé des trucs à la télé aussi au Québec, puis on dirait que là, j'ai vraiment envie de ne pas me présenter trop en moi-même à la télé pour pouvoir juste faire mes spectacles d'humoriste d'un côté puis pouvoir me cacher sous un personnage de l'autre.
T'as animé des émissions genre des talk shows?
Ouais, j'ai animé, j'ai fait de la chronique, puis j'ai animé un truc qui s'appelait L'heure est grave à Télé-Québec, qui était une espèce de genre de daily show, sketch, commentaire social, actualité, ouais, voilà.
Que tu hostais?
Ouais, j'hostais, puis on jouait dans des sketchs là-dedans, puis après j'ai eu quelques propositions d'animer des trucs, puis j'ai fait, je crois que j'ai pas envie d'animer, je veux être au service soit de mes blagues, ou au service de la plume de quelqu'un d'autre, tu sais, d'un personnage. Mais d'être en moi-même à la télé,
ouais,
je trouve que ça fait qu'on peut moins disparaître sous quelqu'un. On devient automatiquement Virginie Fortin qui joue dans tel truc. Puis je vais toujours être Virginie Fortin qui joue dans tel truc, mais je veux... Je sais pas, on dirait que j'aime le mythe de l'actrice qu'on ne connaît pas.
Mais t'es pudique? Je crois.
Au 100%,
ah ouais. Ouais, très pudique. Ouais. C'est beau, mais ouais, ça se ressent sur scène aussi. C'est... Et d'ailleurs, tu dis, je fais de l'observation, et c'est quand même une autre catégorie que celle de... J'ai l'impression que dans l'autodérision ou l'autodestruction, parfois, bah, justement, un peu Blanche Gardin, elle, il y a un truc où tu ouvres et tu vas dans l'intime, et toi, c'est pas exactement ça. Toi, c'est vraiment la société, ton objet. Ouais. Tu te mouilles, bien sûr, et on te découvre, mais il y a plein de choses que tu gardes cachées, que tu gardes pour toi. Tu le décides, toi, ce que tu ne veux de trier.
Ouais, je pense que ouais, mais... C'est une fausse intimité, là. Je pars d'expérience personnelle pour faire un commentaire social.
Toujours,
en fait.
Ouais.
C'est jamais... j'ai pas envie non plus de faire une thérapie sur scène, là. Ouais. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Puis, ouais, j'ai une certaine pudeur. Moi, je trouve que Virginie Fortin, l'humoriste, c'est ça... C'est ça que je donne. Là. Je donne pas. J'ai pas envie de donner Virginie Fortin l'être humain. Après, peut-être que c'est parce que j'ai grandi avec un papa comédien qui faisait ça, puis il y a eu beaucoup de tentatives d'intrusion dans la vie familiale, dans la vie privée. Puis moi, je trouve que c'est précieux. J'ai pas envie de donner trop de clés. Puis je veux être en contrôle de ce que je donne. Puis tu sais, j'essaie d'être super honnête, puis d'être vraiment moi-même, puis que les gens aient accès à Virginie Fortin, mais non, ils n'ont pas accès à Virginie Fortin, ils ont accès à la sur-Virginie Fortin. Ils ont accès à... C'est pas à moi, c'est le sur-moi, là. Sur scène, je suis un spectacle. Puis ce spectacle-là, il est vraiment plus puissant que Virginie dans la vraie vie. Moi, dans la vraie vie, je suis un peu timide. Ben, je suis pas si timide, mais je suis un peu comme plus réservée. J'ai genre, oh mon Dieu! Je suis pas comme en état d'être grandiose.
En français, parce qu'en anglais, t'es cute bitch. Oui.
Non, mais on dirait qu'en spectacle, quand le spectacle commence, ça va, je suis en contrôle, je suis en puissance, je peux pas stresser. Mais après, dans la vie... Je veux être un humain normal qui... Je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, je suis donc génial. Je vais juste vivre ma petite vie.
Parce que pour situer aux auditeurs et auditrices français, en fait, ton père, est-ce que tu le présentes dans le spectacle, mais c'est un comédien très connu.
Oui, voilà. C'est un comédien connu au Québec qui s'appelle Bernard Fortin, qui a joué dans toutes sortes de séries télé, mais il est aussi très connu pour sa voix, parce que c'est un doubleur, il double tout le monde et son contraire, il double dans les Simpsons, en fait, il fait Ned Flanders dans les Simpsons, le Chief Wiggum, Révérend Lovejoy, il fait trois personnages. Donc Bernard, mon père a une voix très connue.
Identifiable.
Ouais, vraiment.
Et ta mère était comédienne aussi?
Non, ma mère n'était pas comédienne. Ma mère, elle a travaillé genre pour Bell Canada pendant des années, puis après, quand ma petite sœur est née, puis la carrière de mon père a décollé, elle a décidé de s'occuper des enfants et de l'agenda occupé de Bernard Fortin.
Sacré Bernard Fortin. Mais donc Bernard Fortin, il était reconnu dans la rue?
Oui, quand j'étais petite, oui, il était très reconnu dans la rue. Puis souvent, ils ont demandé à faire des émissions de télé pour voir la famille, puis
des
enfants, on a ouvert la porte, mais souvent, on l'a fermé, puis c'était très important, puis de garder ça. Moi, j'ai pas envie de mettre de l'avant ma vie privée, comme mon couple. Je sais qu'est-ce qu'ils font avec ça après les médias. J'ai pas envie.
Tu sais, tu poses une limite et tu as été habituée dès l'enfance. Et tes frères et sœurs, ils sont aussi dans l'œil public?
Ma petite sœur, elle travaille en télévision aussi. Elle fait plus les vêtements, le stylisme, les costumes. Puis mon frère, c'est le rationnel. Ouais, c'est le cartésien de la famille qui, lui, mon Dieu, en ce moment, il est propriétaire d'un gym, mais avant, il était genre programmeur. C'est tout multipotentialiste. Touche à tout, vraiment.
Et ton père, il te soutient quand sa fille Virginie veut se lancer dans une carrière pas identique, mais pas si éloignée de la sienne, comment il lui...
J'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui viennent de des familles qui comprenaient pas, pour qui, genre, ils étaient le mouton noir de la famille. Là, leur père est dentiste, la mère est psychologue, puis lui, il veut être comédien, puis ils sont comme, ben non, c'est pas un vrai métier. Sauf que moi, vu que mon père a réussi, puis ça a été ça son métier. Il m'a soutenu. Mes deux parents m'ont soutenu. Ils m'ont jamais poussé vers ça, par contre. Ça a jamais été vas-y absolument, mais ça a jamais été non plus vas-y pas. Il a toujours été très lucide par rapport à ça. T'sais, c'est sûr que moi, je suis un enfant, puis j'ai mon père qui réussit, puis qui fait vivre une famille avec son métier de comédien. J'ai l'impression que c'est facile, que c'est donné à tout le monde, puis qu'on peut tous le faire. Mais il a toujours été très, comme, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le fun, c'est pas tout le glam que t'imagines. Puis moi, j'écoutais, mais je comprenais pas. Puis en début de carrière, j'ai presque renié mon père. Je voulais pas être associée à lui. Je voulais être ma propre identité. Je voulais pas être la fille de Bernard Fortin. Je voulais pas que les gens fassent des associations de « Ah, oh, on sait bien. » Et là, parce que son père, j'ai vraiment pris une distance avec mon père. Mais puis maintenant que ça marche, puis que j'ai une carrière, je comprends qu'est-ce que mon père voulait dire par « C'est pas toujours facile, puis c'est pas que glam, puis tout ça. » Puis maintenant, j'ai plus non plus de pudeur à nommer que c'est mon père. Puis d'ailleurs, au Québec, tu sais, j'en parlais pas du tout dans mon premier spectacle, mais maintenant, j'en parle parce que je pense que je suis un peu émancipée d'avoir l'impression que je suis la fille d'eux. Tu sais, maintenant, on dirait que
t'es plus connue que lui, peut-être maintenant. Bah ouais.
Tranquillement, mais
un peu
sûrement.
Comme Angèle avec ses parents.
Oui, c'est ça.
Mais peut-être que c'est marrant parce que je suis fascinée par notre conversation parce qu'on est très différentes.
Ah ouais.
Ouais. Hein. Moi, ce que je fais justement sur scène, c'est
super intime, en fait.
Ouais. Ouais. Mais après, je suis fan, tu vois, de Haroun, alors qu'Haroun, c'est plus proche de toi. C'est vraiment. Et je veux dire, en fait, c'est. Mais parce que je pense qu'on. Moi, pour le coup, oui, il y a un côté thérapeutique, mais parce que j'ai pas la nostalgie de l'enfance, parce que je pense que.
Ça, c'est plus difficile.
Ouais.
Ouais, c'est
ça. Mais alors que toi, finalement, il y a un truc qui est une expérience unique de spectateur de stand-up, c'est que c'est pas la souffrance qui en. C'est-à-dire que parfois, t'as vraiment ce truc où des humoristes, où t'écoutes et tu sens qu'ils ont dû... Bah, moi, à la base, le stand-up, c'était Louis C.K. et tu sentais une vraie souffrance.
Ouais.
Toi, c'est le passé et le bonheur.
Oui.
Il y a la nostalgie du passé et peut-être l'angoisse du futur.
Oui.
Mais un truc beaucoup plus, finalement, en fait, universel. Enfin,
exact.
Tu vois que... où je pense que peut-être la plupart des humoristes se mettent dans la catégorie de vous, les humains, vous pouvez pas comprendre ma blessure, ma souffrance.
Ouais.
Et toi, tu fais partie de tous ces humains qui, en fait, où il n'y a pas une blessure, si ce n'est que celle de s'abasourdir, celle de, du grand questionnement oui. de qu'est la vie. mais c'est vrai que t'es pas très torturée, en fait.
Non, mais en fait, non. j'étais très torturée. L'affaire, c'est que j'ai été très torturée par ces questionnements-là. Ils m'ont vraiment... Ils m'ont vraiment angoissée pour de vrai. Mm. Et puis, jeune vingtaine, là, j'avais quand même de la difficulté. Toutes les heures de ma vie, je réalisais que j'étais dans un corps humain qui m'empêche... J'étais comme, mon corps va vraiment moins vite que mon esprit. Puis ça me dérangeait d'avoir à traîner mon cerveau dans mon trépied. Tu sais, ça, c'est comme un... J'étais vraiment dans ces pensées-là. À toutes les heures de ma vie, je réalisais que j'existais. Puis j'étais comme, mon Dieu. Puis ça m'habitait vraiment. Mais quand j'ai comme accepté que je saurais jamais vraiment pourquoi, puis que j'aurais jamais la réponse, ça m'a vraiment apaisée. Quand j'ai juste accepté que le but, c'est de passer le temps puis d'avoir le plus de plaisir possible, ça m'a vraiment apaisée. Puis quand j'ai commencé l'humour, je parlais pas du tout de ça. Quand j'ai commencé l'humour, je faisais des one-liners, je faisais des petites blagues sur tout et rien. Puis, mais quand j'ai acquis la confiance de parler vraiment de mes trucs... parce que non, c'est... Oui, c'est une pudeur, mais ça reste super intime, ces questionnements-là, sans bien que ce sûr. Soit... Mais mon intimité, ça reste toi? Mes réflexions profondes, tu sais, ouais. qui m'ont vraiment stressée puis qui m'ont vraiment angoissée longtemps. Mm. Mais quand j'ai été capable de faire des blagues là-dessus, je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent avec ces questionnements-là.
Grave.
À qui ça va faire du bien, tu sais.
Grave, mais c'est en fait une forme d'humour ultra exigeant. Parce que je pense que la plupart des stand-up, c'est quand même beaucoup résoudre une blessure narcissique. Alors que toi, c'est pas tellement la blessure narcissique. On a l'impression que ça, c'est plutôt résolu, la question du narcissisme, que le profond... l'étonnement perpétuel d'être en vie.
Oui, ouais. C'est exactement. C'est l'étonnement perpétuel d'être en vie. Puis après, ça reste super narcissique parce que, tu sais... Je dis, ah, j'ai une pudeur. On dit, ah, j'ai une pudeur. Ah, reste que 3 soirs semaine, je vais parler sur scène dans un micro de ce que j'ai envie de dire, tu sais. Fait que ça part d'un certain narcissisme, là, tu sais. Tout le monde a ça. Puis après, je veux revenir parce que tu disais que toi, tu parles de trucs beaucoup plus intimes.
Enfin, tu viens de le dire, c'est hyper intime aussi ce que
oui,
tu dis.
Oui, ouais. Sauf que dans ton intime aussi, il y a de l'universel, j'imagine. Là, tu parles d'expériences humaines. Oui, non, mais quand tu parles, parce que c'est pas pour rien que les relations interpersonnelles, c'est un sujet qui est comme inachevable. Donc, je sais pas.
Je pense qu'aussi, c'est que j'ai eu aussi une enfance, l'extrême inverse de la tienne.
Ouais,
dans aussi. Le sens où moi, je devais pas combattre le fait d'avoir quelqu'un de connu. Moi, je viens d'un milieu parisien, ashkénaze, communiste, que personne ne connaît, en fait. Mm-hmm. Les gens ne comprennent pas. Et donc, résultat, parfois, si je parle de trucs, c'est aussi pour dire, mais si, vous savez, les juifs, c'est pas que comme dans La vérité, si je mens, ou en fait, je révèle des trucs, mais parce que ces trucs sont inconnus. En fait, total. Donc en fait, je me dis, mais on bouffe du porc et on fait notre bat mitzvah. Enfin, donc en fait, c'est vraiment, c'est des trucs où parfois, moi, c'est l'inverse. J'étais pas dans l'œil public. Au contraire, j'étais presque dans un milieu
reclus,
sectaire, presque. Ouais. Assez sectaire, tu vois, dans une colonie juive, ashkénaze, communiste, tu vois, avec que des... Mais donc, c'est bizarre, tu vois, ça fait que des enfants qui se prennent pour Woody Allen. Enfin, il y avait un truc très... Et c'est vrai que, parfois, je révèle ça, mais parce que, au contraire, il y a un truc où il y avait cette culture du secret... que ça m'amuse d'aller l'exploser. Alors que toi, je pense que, tu vois, c'est vraiment la dynamique inverse, quoi.
Ouais, mais après, on dirait qu'on se rejoint quand même au milieu de... Je sais pas, là, ça parle quand même... Parce que toi, ton enfance puis ton intime, tu trouves des façons de la raconter pour que ça parle à tout le monde, au final. Puis c'est précieux, là, je pense, là, d'avoir cette histoire-là, justement. Non, mais c'est vrai, parce que c'est beaucoup plus intéressant, puis c'est beaucoup plus inconnu, justement, que moi qui arrive avec mes grands questionnements existentiels que tout le monde se pose, tu sais. T'arrives avec des nouvelles, nouvelles aventures.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous deux, je crois qu'aussi, il y a peut-être des similitudes sur le fait d'être une femme sur scène.
Ouais, ça, c'est sûr.
Et tu vois, dans ton approche, tu vois, ça, je me dis, c'est peut-être moi, ma culture anglo-saxonne, qui fait que j'étais inconsciemment influencée par des humoristes comme toi. C'est que j'ai pas envie de surjouer la femme sur scène, qui peut être un truc très français, mm-hmm. en fait, ou parce que t'as la nouvelle vague, tu sais, la vision de la beauté. Il y a un truc où parfois en France c'est très compliqué, en fait, d'être une femme. Je pense qu'il y a vraiment, donc t'en as certaines qui se sont glamourisées avec des tenues rouges et des talons et des grosses lèvres rouges, ou d'autres qui se sont virilisées en fait, ouais. avec des grandes vestes. Ouais. Et toi, il y a un truc très simple qui, je pense, peut-être a été amené par Marina Rollman, mais je vois pas d'autres humoristes françaises qui aient apporté ça, parce que même Blanche Gardin, il y a le costume, le clown, un truc comme si c'était... Et même moi, finalement, je suis encore pas tout à fait libérée du clown, puisque je suis en pyjama sur scène, ouais. dans un costume, tu vois.
Mais c'est une... en plus, c'est une question que j'avais de faire... J'aimerais faire le même spectacle un jour, habillée super sexy, tu sais, okay. ouais. super maquillée, ouais. Super, tu sais, genre mise en beauté incroyable, ouais. faire le spectacle, voir comment c'est reçu, puis faire exactement le même spectacle, mais habillée justement...
tout en noir.
Ouais, ben même pas tout en... Mais juste comme... Jean. Aucun effort. Là, mon spectacle... J'essaie d'avoir un look classique sur ouais. scène de base qui est pas... qui inspire rien de... Qui ne distrait pas de ce que je suis en train de dire, tu sais. Ouais. Après, j'ai mes gros cheveux, j'ai mes bottes blanches, ouais. mais ça reste comme... J'essaie d'être neutre, tu sais. Mm. Moi, je veux me trouver un peu cute, mais mm. pas... je veux pas que ce que je porte distrait de ce que je dis, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé l'humour, où j'aimais bien jouer avec ça, parce que je savais qu'en tant que jeune femme, on me sexualisait peut-être de base, donc on s'attendait pas à ce que je fasse rire. Mmh. Donc je faisais mes spectacles avec un grand rouge à lèvres rouge, mmh. une belle robe noire, un talon, pour que les gens se disent « bon, est-ce qu'elle va me faire rire celle-là? » Puis je savais que j'arrivais avec des blagues qui faisaient rire à tout coup. Fait, j'aimais ça jouer avec ça, mais j'aimerais qu'on puisse
se libérer.
Se libérer. Ouais. Je vois les gars, ils s'habillent n'importe comment, puis il n'y a pas de
choses.
On se pose pas de questions.
Non.
Puis le gars, il peut être en costard, il peut avoir cravate, veston, cravate. Le gars, je pense, il pourrait être en petite culotte. Il pourrait être en, genre en chest, là. Il pourrait être torse nu.
Clairement.
Que
ça nous déconcentrerait.
Ça prendrait peut-être une minute
ouais.
ou deux, faire comme pourquoi il est torse nu, mais après, on l'écoute.
On oublie. Ouais.
Mais nous, on fait nos blagues torse nu.
Ah, bah non.
Il y a personne qui nous écoute jamais, tu sais. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
J'aimerais ça réussir à être émancipée de ça. Puis pour l'instant, la façon que je m'en émancipe, c'est en étant le plus neutre possible ouais. sur scène, c'est-à-dire un petit effort, mais pas trop, puis juste comme...
Ouais.
Puis ça.
Et quand t'écris chez toi, tu écris juste pour le stand-up et ensuite t'es en tant qu'actrice, ou tu réfléchis à écrire des séries, du cinéma, des bouquins?
Je suis pas encore en train de réfléchir à écrire des séries, du cinéma. Il y a des petites propositions des fois, mais en ce moment, ma passion, c'est vraiment de jouer puis d'écrire mes blagues. Puis j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion puis cette passion-là, mais c'est là-dedans que je mets mon temps. Puis on m'avait approché pour une série, puis j'avais commencé à écrire, puis ça devenait... la sixième priorité, là. C'était pas... Quand, j'aurais bien voulu là, tout donner, mais on dirait que vu que je peux écrire mes blagues, vu que j'ai les opportunités pour jouer...
Ça suffit.
Toutes les autres affaires deviennent
moins
accessoires, puis quand je fais quelque chose, je veux bien le faire, puis je veux mettre tout mon temps, donc... Mais c'est sûr que ça mijote à l'intérieur de moi, en ce moment, d'écrire quelque chose. Ouais. Pour la télé, une fiction, même du théâtre, je sais pas. C'est là, c'est en latence dans mon corps. Mais toi, t'écris aussi?
Ouais, j'ai écrit un livre. Bon, après, c'était un premier, donc là, j'aimerais me lancer dans l'écriture d'un deuxième qui soit un peu plus romanesque, mais parce que je pense qu'on me donne pas non plus énormément de rôles en tant que comédienne, et que résultat, peut-être que le drame me manque aussi, et que je trouve que parfois, c'est un petit peu limite. L'humour, j'adore, mais la recherche de vannes fait que parfois... Je me dis, si j'écris un bouquin, ça me permet de plus, tu vois, de développer dans la mélancolie assumée.
Oui.
Tu vois, et c'est pas la mélancolie dans le but de finir par une punch. C'est juste,
juste la mélancolie.
Ouais.
C'est ça le but.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Et parfois, je trouve ça agréable parce que tu dis autre chose et que parfois, c'est vrai que la punch, elle te... Mais en même temps, ton spectacle, c'est en ça que c'est une performance. C'est que moi, je trouve que parfois, la blague vient couper court à la réflexion.
Oui, je sais, mais c'est un spectacle d'humour.
Non, c'est un spectacle drôle. mais tu pousses la réflexion, quoi. Non, c'est courageux et c'est ambitieux. C'est vrai que moi, parfois, j'ai une idée d'un truc auquel je pourrais réfléchir, puis paf, dès que la vanne me vient, bah, je coupe la réflexion, ouais, puis next, tu
exact.
Vois. Alors que toi, c'est... Mais donc, ça, c'est hyper inspirant. Et après, tu vois, pour l'écriture des séries, films, j'essaye, je me dis, tiens, est-ce que si j'adaptais mon livre en série, j'essaye,
ouais.
Mais j'essaye... Parce que je pense que quand même...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais pas, l'idée d'être un peu chef, d'avoir du monde autour, c'est juste que parfois c'est un peu solitaire aussi, et le stand-up, mm-hmm. ou aussi quand t'es comédienne, je trouve que t'es un peu, t'es pas décideuse, alors que moi, tu vois,
t'aimes être décideuse.
J'aime bien avoir des équipes, des gens, des machins, je vais lancer une émission sur YouTube, j'espère que t'accepteras de venir un jour.
Mon Dieu, avec grand plaisir.
Mais alors, je sais pas si ça te plaira. En fait, l'idée, c'est qu'on regardera des films porno avec l'invité, que le spectateur ne verra jamais, et nous, on commentera tel des commentateurs de foot.
C'est très drôle.
Ouais. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. Oui. Et ça, tu vois, là, je suis en train de préparer le premier tournage à lieu mardi.
Oh mon Dieu, c'est très drôle.
J'espère que tu viendras, Virginie. L'idée, c'est pas du tout de demander à chacun c'est quoi sa catégorie, c'est juste de décrire ce qu'on voit à l'image.
Exact.
Tu vois. Et ensuite, ça nous inspire la discussion. Ça peut revenir à une discussion sur le temps ou l'espace, tu vois, vraiment.
Ah oui, oui, parce que la porno, ça se passe dans le temps et l'espace aussi.
Dans une autre dimension. Ouais. Et ça, ce qui m'amuse, tu vois, là, c'est de créer toute l'équipe, etc. Et de vraiment, je pense que j'ai un truc aussi où ça m'amuse avec la styliste de voir comment je vais habiller les gens qui vont venir dans mon émission.
Mon Dieu.
Je trouve ça drôle, tu vois, ce truc où tu sors, ou même le podcast, tu vois, là, ça, je vais nous réécouter et je trouve ça libérateur avec le podcast d'écouter la voix de quelqu'un d'autre. Et parfois, ça me manque un peu dans le stand-up. Mais tu trouves peut-être ce plaisir dans le collectif que vous avez à Montréal ou faire des choses ensemble.
Mais en fait, moi, je retrouve ce plaisir justement parce que, en fait, être décideuse, je sais pas, j'aime ça, avoir le contrôle puis décider. Mais parfois, j'aime ça aussi que ça soit quelqu'un d'autre.
Ouais.
Donc, je le retrouve. Ce que j'aime de pouvoir faire et stand-up et être comédienne, c'est de pouvoir et être décideuse d'un côté, en contrôle, avoir toute la pression. Si ça chie, c'est de ma faute. Si ça réussit, c'est grâce à moi.
Bien sûr.
Mais de l'autre, de pouvoir partager cette pression-là avec une équipe.
Ouais.
Moi, j'aime tellement jouer puis m'abandonner dans les idées de quelqu'un d'autre, dans les dialogues de quelqu'un d'autre, de ne justement pas être décideuse de quoi que ce soit. Puis de faire partie d'une équipe, justement, qui tient un projet. C'est tellement beau, moi, dans les tournages, la fiction, ce que je trouve beau, c'est de voir tout le monde faire son petit travail.
Son petit tambourine.
On a tous nos métiers différents, mais qui portent tous le même projet. Puis là, j'ai le sentiment, la fraternité, l'équipe, puis j'ai eu la chance d'être sur des projets où c'était des tournages vraiment cool. C'était pas des tournages genre difficiles avec un réalisateur
fou.
Ça a toujours été super bienveillant, super drôle, super agréable. Donc, il y a comme ces deux parties-là de moi qui existent. Je pense que être que stand-up, ça serait trop de pression pour moi, je pense.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est très agréable. Mais même, c'est aussi le plaisir sensuel. Moi, j'adore sur les plateaux quand il y a une maquilleuse gentille.
Oui.
Parce que parfois, il y en a des connasses aussi hein, qui te disent les cernes, les rides. T'es en mode, oh, je t'en supplie.
Ouais, moi, on m'a déjà dit, ta moustache, est-ce qu'on l'a... Là, j'étais comme, pardon.
Pardon, quoi?
Je veux dire... Tout le monde a un petit duvet de... Tout le monde. Genre, pourquoi self-conscious aujourd'hui de...
Oh, mon Dieu!
Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ta moustache?
Ah, ouais.
On n'en parle plus jamais, madame.
Oh mon Dieu!
Ouais, c'est tellement vulnérabilisant.
Ouais, vraiment. Parce que justement, c'est agréable, parce que si la maquilleuse est gentille, t'es dans une position de vulnérabilité. Moi, la maquilleuse, j'ai fait une émission là, quotidien à Paris, et la maquilleuse, elle me fait... Alors, tes cernes, le problème, c'est que si j'essaie de les camoufler, ça va faire un pâté, et ça se verra encore plus. Et je suis en mode...
Oh, mon Dieu!
J'y pensais pas avant!
Mais t'as même pas de cerveau!
Et d'un coup, t'es là en mode quoi?
Oui,
mais,
exact!
Et ça te rend self-conscious d'un truc.
Je sais. Que...
Ah ouais,
c'est exactement ça. Tes cernes, c'est ma moustache.
Ouais.
C'est moi non plus, ouais. J'y pensais pas.
Et ça, c'est le côté dangereux du métier de comédienne aussi.
Ouais.
Où, tu vois, parfois, moi, on m'a beaucoup fait des réflexions dans ma vingtaine sur les castings où j'ai tourné dans pas mal de pubs et on me disait, et j'ai eu beaucoup de réflexions sur mon poids parce que je faisais un 38-40 et on me disait, oh, ça va pas. Hein.
Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je veux dire, c'était toute petite, là.
Mais ah ouais, mais on me disait que j'étais pas assez mince tout le temps.
Oui, mais
tout
ça, c'est le problème ici, là.
Ouais.
Je veux dire, je me rappelle avoir pris l'avion de Air France et les consignes de sécurité, elles étaient chantées ou genre par des hôtesses, des agents de bord. Et une des raisons de mettre la ceinture de sécurité, c'est que ça va donner l'impression qu'on a une taille plus fine. Ça, c'est comme une... C'est genre une blague. Ils nous disent de mettre la ceinture de sécurité qui va en plus bien nous affiner la taille. Puis j'étais comme... Aussi nous sauver la vie, genre.
Wow.
Je trouvais ça tellement débile qu'en 2020,
wow,
genre,
c'est
ça soit...
Ouf.
Puis c'est vrai que ici, vous, genre la minceur, toutes les femmes me parlent de leur poids,
t'sais. Tout le temps.
Puis je suis comme, mais vous réalisez que vous avez pas vraiment le droit de parler de votre poids à quelqu'un de plus gros que vous. C'est, ça se fait pas, là. C'est super. Non, mais c'est con. Puis c'est vraiment bizarre. Puis moi, j'essaie là, de m'émanciper de ces questions-là aussi, là.
Ouais.
Puis de faire comme, mais on s'en fout, tu sais.
Je sais. Mais t'as vu, c'est le premier truc dont je t'ai parlé.
Mais
hein.
Oui.
J'étais en mode, mais le lait d'avoine, c'est pas un peu sucré,
exact.
C'est pas. Mais parce que c'est tout le temps,
ouais,
tellement
mais...
présent.
Genre, c'est tellement fou. Puis moi, après ça, c'est vrai qu'à la télé, je veux pas. Moi, j'essaie de faire comme. De me trouver belle comme je suis. Puis pour vrai, je me trouve belle, puis je suis bien dans ma peau, puis ça va. Puis
mais
genre,
bien sûr, mais il y a une vraie différence culturelle.
Mais
ouais.
Après, de se voir à la télé, c'est
ouais.
Vrai que c'est dur.
Ça te fuck un
c'est
peu la tête.
C'est vrai que c'est dur.
Ouais, ouais.
Puis, tu sais. Moi, quand j'ai joué justement dans Trop, j'ai une scène où je me promène en sous-vêtements dans la rue, tu sais. Puis moi, je suis bien dans ma peau, mais après, d'autres comédiennes me disent « ça fait du bien de voir, tu sais, un corps, un vrai corps de femme
ça veut dire
à la
quoi?
Télé. » Là, j'étais comme « ah,
hein?
Ok, ça... » Non, mais tu sais, elle essayait de me dire que bon, je suis pas mince, tu sais.
Oh.
Genre, puis ça fait du bien de voir. Que... Mais moi, dans ma tête, moi, j'étais pas encore atypique qu'on voit pas. Moi, dans ma tête, j'étais un corps qu'on voit.
Un beau corps, t'sais. Bien sûr. Pas, ouais.
Ouais.
Un corps imparfait.
Un corps,
ah oui.
Aïe, aïe, aïe. Genre, ah!
C'est ouais.
Très. Tu sais, puis là, la moustache aussi, puis tout ça, puis de se voir à la télé, mais j'essaie de me dire, c'est pas grave, là. Moi, je suis un être vivant, je suis dans cette enveloppe-là, puis c'est ça qu'elle est, puis genre, pour vrai, moi, me trouve belle, là. Fait que manger de la crotte, les autres, là, tu sais, mais genre. Mais c'est un constant travail. Après, moi, je veux dire, je fais du sport, je cours à tous les jours, je mange super bien. Puis je veux pas couper le lait d'avoine pour peser 2 kilos de moins, là,
non,
t'sais.
Mais t'es magnifique!
Mais je veux dire, je suis super active, je suis super sportive. Genre là, dans le fond, les critères de beauté voudraient que je ne sois pas en santé pour...
Ouais.
Parce qu'en ce moment, je suis au top de ma santé. Genre, j'ai un cardio d'enfer. je veux dire, ça va. Fait que je comprends pas c'est pourquoi faut être mince. Faut être mince pour prendre le moins de place possible. Genre.
Ouais, clairement. Ouais, clairement. Mais je pense qu'il y a un truc culturel parce que, à mon avis, quand même, de ce que je vois, de ce qu'on m'a raconté, j'ai trop hâte d'aller au Canada, au Québec, mais il y a un truc déjà plus proche des États-Unis où aussi, je crois que les femmes parlent plus fort. Tu sais,
ouais.
Tu vois, vraiment.
Ben oui,
ouais, vraiment, il y a un truc où, mine de rien, la femme française, c'est un gros dos, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est compliqué. Hein.
Oui, puis si vous parlez trop fort, vous êtes chiante.
On est chiante, on est vulgaire.
Oui, nous, il y a encore de ces relents-là chez nous.
Mais moins.
Vraiment moins. Vraiment, vraiment moins.
Ouais.
Genre, 100% moins. Là.
Bon, OK, je vais venir.
Oui, viens. Non, mais pour vrai, je conseille à vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes humoristes françaises qui sont venues au Québec qui ont eu un genre
un
de soulagement un peu.
Ouais.
Genre ça peut être ça.
Ben ouais. Oui, il y a pas mal. Bah là, il y avait pas mal de... Il y avait Fanny Rué, j'ai une autre... Il faut que je passe aux questions du questionnaire de Proust. Il y avait une autre camarade, Odalisque, qui est allée à Montréal et elle m'a dit, bah ouais, non, mais c'est une autre ambiance sur les plateaux. Donc je pense que, ouais, c'est un peu...
Ouais, mais c'est une ambiance un peu plus respectueuse d'emblée et pas genre... C'est un
si
peu plus... ouais, ou si... Ouais, quand t'es nouveau, on te connaît pas, Il y a, on te laisse une chance. Il y a un accueil. Il y a pas un genre de ah ouais, prouve-moi.
Ouais,
il y a quand même une espèce de bienveillance. Mm. Ouais, vraiment. Il y a un, ouais, il y a un sentiment, on dirait, de on veut que les gens se sentent bien, j'ai l'impression, tu sais. Après, bon, moi, quand j'ai commencé en humour, c'était pas non plus toujours comme ça. Mais là, je le vois que, ouais, il y a quelque chose de plus accueillant, je dirais.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Sans avoir, sans que tu sentes qu'il faut que tu fasses tes preuves, tu sais.
Ah ouais, ouais, ouais. Non, bah, à Paris, c'est le rap, quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc, c'est le ring. Enfin, ouais. C'est particulier. C'est...
Ouais.
Et les États-Unis, non, ça t'intéresse moins que l'Angleterre? New York, Los Angeles, t'y allais jouer là-bas?
Non, jamais. Pas j'ai trop. Pas envie. Moi, je suis pas non plus quelqu'un d'ambitieux à ce point-là. Ou est-ce que j'ai pas envie de tu sais, j'adore faire ça, puis je suis contente de faire ça, mais aller à New York, à Los Angeles, j'ai l'impression que c'est un océan dans lequel il faut que tu te débattes, puis que t'ailles tellement, c'est tellement ça que tu veux faire, que t'es prêt à tout pour réussir, puis tu vas être serveur pendant 10 ans, puis ça va, genre, moi je suis tellement contente de ce que je fais en ce moment, c'est ça ma vie rêvée, là, c'est ça ma carrière, puis là, que de pouvoir venir ici de temps en temps, développer tranquillement ici, c'est cool. Quand je suis allée en Angleterre, c'était vraiment pour le défi plus que pour devenir humoriste là-bas, là. C'est pour le challenge, c'est pour la découverte, c'est pour l'apprentissage. Ça a vraiment ça a ouvert un peu mes horizons sur ce qui se fait en humour, tu
bien
sais.
Sûr, l'expérience et une autre connaissance de toi, de ton rythme dans une autre langue. Mais après, peut-être que aussi t'as tout simplement des expats, tu sais, à New York, qui aimeraient bien te voir un peu comme hier soir à la nouvelle scène.
Ah oui, mais ça, c'est sûr qu'aller à New York pour les expats, avec grand plaisir. Mais on dirait que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé jusqu'à ce qu'on m'en parle cette semaine, que ça existe, genre...
Parce que c'est en train de se développer pas mal, quoi. Ouais. Là, il y a, bah, y a Shirley Soignon qui a joué en français pour des expats à Londres. Là, il y a Farid qui met des dates en français à New York et à Los Angeles. Et je pense que, bon, bah, ça ouvre la possibilité de se dire... ouais, il y a quand même des francophones là-bas.
Ouais, il y a des francophones partout, en fait.
Partout.
Ouais.
Il y en a en Allemagne, il y a plein de francophones à Berlin.
C'est vrai, j'ai joué pour des francophones dans le reste du Canada, mais j'ai jamais joué pour des francophones ailleurs que dans la francophonie, vraiment. Ouais.
Peut-être un prochain...
Un jour, New York, yes.
Alors, c'est des petites questions du questionnaire de Proust.
Ok. À tes souhaits!
Ah, merci, putain, ça a mis du temps.
Ouais, ils font du bien, ceux-là, qui partent de loin. Ouais.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Sa gentillesse.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Son humour.
Le principal trait de ton caractère?
Je suis rancunière.
Ah ouais? C'est vrai?
Ben non, c'est pas le principal. Ça, c'est un défaut, en fait. Ouais, moi, je me rappelle les choses, puis je vais pas faire payer, mais j'attends que le karma revienne, mais genre, je hold on to grudges, là.
Mais c'est une putain de qualité, tu sais.
Ouais, mais en fait, c'est parce que je pense que je suis exigeante.
Ouais.
Je pense que c'est ça. Je suis exigeante. C'est ça, mon caractère. J'attends beaucoup des autres parce que je donne beaucoup aux gens. Ouais, mais c'est ça. Je donne beaucoup, mais... J'attends rien en retour, mais je suis déçue s'il n'y a rien qui revient.
Bien sûr. Ouais. Non, mais évidemment. Et puis, tu sais, parfois, c'est bien d'être rancunière parce que ça te permet de ne pas te faire carotter une deuxième fois. Moi, parfois, j'oublie. Je me dis, ah, tiens, cette personne, elle m'a fait un truc pas très cool. Puis le temps passe. Puis je me dis, oh, je sais plus pourquoi. Puis en fait, entre guillemets, je pardonne. Il se repasse. Et puis je me prends un deuxième couteau. Je me dis, bon, écoute, Rosa, on va arrêter de. Tu vois, il faut parfois être un peu rancunière. Il faut savoir que tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas être amie avec tout le monde.
Moi, je suis. Amour d'abord, mais c'est terminé vite. Là. Ouais. Mais après, je pardonne aussi. Je veux pardonner. Je veux être une meilleure personne.
Mais parfois,
parfois, faut pas. Mais je pense que je suis exigeante. C'est ça mon. Ouais. Peut-être que je vais changer. Je suis indécise aussi. Indécise, visiblement indécise.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
Ce que j'apprécie le plus chez leur écoute. Ouais. Leur présence, leur écoute, leur non-jugement, leur... c'est ça. Les amis, c'est vraiment la famille qu'on choisit, puis c'est ceux à qui on dit toute la vérité. C'est, ce que j'aime de mes amis, c'est de pouvoir être 100% authentique. Puis c'est bidirectionnel aussi, là, tu sais. Je veux dire, j'espère que ce que mes amis apprécient le plus de moi, c'est mon écoute aussi.
ton principal défaut?
Être rancunière, ouais, mais aussi être paresseuse. Je procrastine, je suis exigeante mais paresseuse.
Ah bon?
Mais je pense que la paresse, ça fait que
tu rêves.
Ça fait que on, ouais, mais ça fait aussi qu'on trouve des façons de faire les trucs de façon plus efficace. Ouais. Hein, tu sais. Donc c'est pour ça que je suis exigeante, mais je procrastine quand même un peu. Je remets beaucoup à plus tard, puis je me mets dans la merde, puis c'est dans la merde que je performe. Alors je sais pas comment régler ce défaut-là, tu sais. Mais ouais, ça c'est un défaut. Puis exact, être un peu rancunière. Ouais, rancunière, c'est un défaut et une qualité, mais ouais, c'est je dirais que c'est ça. La paresse et la rancune.
Bah oui.
Ouais.
Moi, ça fait des semaines que je suis censée envoyer à l'assurance. Tu vois, là, c'est tout noir dans les angles.
Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai une lampe à huile qui a carbonisé tout mon appart. Oh. Et donc, il faut que je prenne des photos. Ça y est, il y a un mec qui est venu faire le devis. Ça me coûte 4000 balles. Si je dois faire nettoyer et repeindre.
Pardon?
Donc je dois envoyer à l'assurance de ma banque remplir un dossier. Et ça, là, oui, je procrastine. C'est-à-dire que,
oui, mais je comprends, mais moi, ces dossiers d'adultes, là,
ah,
là,
mon Dieu.
Les dossiers de grandes personnes, je procrastine là-dessus aussi. Là.
Là, c'est les seuls vrais. C'est dans ces moments-là que mon célibat me pèse.
Ouais, tu vois, comprends.
C'est
tu voudrais
juste
une équipe,
là. Ouais, là, j'aimerais qu'on soit à deux pour se faire chier ensemble là-dessus. Ouais. Vraiment, sinon, on reste 90% du temps, je kiffe. Mais dans ces petits moments-là, je suis en mode
faut
si
que je prenne
pouvais.
Ça sur moi.
Ouais. Ouais. Parce que j'aimerais bien un mec qui soit aussi mon assistante. Et qui fasse tous ces petits trucs du quotidien chiant.
Je comprends. Ouais. Mais en même temps, quand tu vas l'avoir fait,
je pourrais
tu vas te
être très fière.
Tellement fière, ouais.
Et
tu vas réaliser que c'était moins pire que tu pensais.
Oui, au final.
Puis là, c'est à moi que je parle parce que j'ai plein de petits trucs comme ça que je dois régler.
Ouais. Non, mais bien sûr. Et quand une fois c'est réglé, c'est un bonheur de tous les jours.
Exact.
Moi, pendant des mois, tu vois, ce frigo, il faisait un bruit. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un sextoy coincé dedans.
C'est un frigo.
Ça, c'est un frigo.
Il est bien caché.
Il est bien caché.
Ouais, j'adore.
Tout ouvre et c'est dedans.
Wow.
Et avant, j'avais un ancien frigo qui avait de l'eau. Mais bon, qui fonctionnait un peu, mais mes voisins et ma mère m'avaient dit change-le, il y a de l'eau. Et j'étais en mode bon, ok, je suis assez influençable. Je change et le nouveau frigo.
Oh, pire.
Tout le temps un bruit de moteur. Et ça pendant des mois.
Et t'as réussi à vivre avec ça pendant des mois?
Ça m'a rendu folle. J'essaie d'être le moins possible. Enfin, ça me réveillait la nuit. Et il a fallu, ça a été kafkaïen pour appeler Darty pour essayer de changer de frigo plusieurs fois. Et chaque fois, je me plaignais dans le podcast et c'était les aventures de ce frigo terrible. Et j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais.
Et là, t'es sortie du frigo.
Et j'en suis sortie. Mais il est à l'intérieur, il y a du noir. Je pense que c'est la suie qui a aussi carbonisé
l'intérieur du frigo. Oh mon Dieu, on se ressemble là-dessus par contre.
C'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la santé, mais
exact.
Quand même, c'est chiant.
Ouais.
Ton occupation préférée?
Mon occupation
préférée?
C'est quoi ça? Dans quel sens?
Ce que tu préfères, ton petit truc que t'aimes, je sais pas.
Et avec quoi je m'occupe?
Faire du vélo.
Faire la course.
Ouais.
Le footing, le vélo.
Ouais.
Le piano. Ouais.
Ah ouais, tu fais aussi du piano.
Ouais.
Apprendre des langues aussi.
Apprendre les langues, ouais. Mais ça, ouais.
Wow.
Apprendre les langues, c'est ma passion. Mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas appris une. Mais ouais, je dirais la course, vraiment. Le footing, ça m'a... Le vélo aussi, j'adore le vélo. Je fais le vélo l'hiver.
Mm.
Et puis le piano, j'ai un piano chez moi. Puis je joue du piano souvent.
De footing, t'en fais depuis toujours ou c'est un truc que t'as
fait? Ça fait 3 ans.
Ah ouais, ouais tu t'y es mise.
Ouais, je m'y suis mise et puis maintenant. D'ailleurs, là, tout de suite après, je vais aller courir dans le bois de Vincennes.
Wow.
Ouais.
Incroyable.
Yes.
Ton idée du bonheur?
Mon idée du bonheur, c'est de... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment... Je pense que pour être heureux, il faut se satisfaire de peu, là, tu sais.
Mmh.
Fait que mon idée du bonheur, c'est vraiment d'être juste content avec ce qu'on a. Je sais pas comment dire. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que c'est exactement le bonheur. Le bonheur, c'est des petits moments. C'est des petits moments qui viennent et qui passent. Puis quand on les a pas, on a hâte de les revivre. Tu sais. Fait que je sais pas trop. Je pense que c'est d'être bien avec soi-même, d'être bien avec la personne qu'on est. Mais je sais pas exactement.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un truc. J'ai un voisin qui est anglais. Et puis. il me disait « Oh, I saw you on TV, good, it's coming soon, I hope for you it's going to come.
Ouais. »
Et moi, je lui répondais « It's here, exact, it's here. » Il disait « No, no, but I will trust someday, oui, it's today. »
C'est tellement drôle parce que moi aussi, des fois, les gens, ils me disent « Ah, on vous voit de plus en plus à télé, là, je vous souhaite là, que, tu sais... »
Un jour.
Oui, puis je suis comme « moi,
aujourd'hui,
là, c'est, en ce moment, c'est ma best life en ce moment.
Oui.
C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Là. C'est ça, je n'aspire, je veux pas être genre... » Plus bien connu que ça, là, ça va, tu sais.
Mm.
Fait que c'est tellement drôle que les gens... Mais c'est parce qu'ils se font une idée que le succès, c'est le plus tout le temps, alors que...
J'avais envie de lui répondre, « Yeah, maybe the day I won't have you as a neighbor. » Il dit « Ultimate success », tu vois. Putain. Non, mais en plus, il est gentil, mais c'est comme c'est un cliché.
Mais il te souhaite quelque chose que toi, tu souhaites même pas tant que ça.
Ouais.
Comme si ce que t'avais, c'était pas assez.
Ouais.
C'est comme... Pas... Non,
très
non, moi, j'étais contente. Ouais, j'étais contente de ce que j'avais, là.
Ouais. Où aimerais-tu vivre?
Moi, je ne vivrai jamais ailleurs qu'à Montréal. Je vis où je veux vivre. Après, non, je peux même pas m'imaginer. J'aime beaucoup, j'ai adoré le Portugal, j'aime les températures un peu plus clémentes, c'est pas trop cher, c'est beau. Mais je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'à Montréal, sinon pour comme... peut-être 3-4 mois, un tournage quelque part, aller. Mais c'est plate, hein, je suis casanière, mais Montréal, c'est tellement une belle ville, cool. J'adore, bon, l'hiver, des fois, c'est long, mais non, Montréal. Je pense que plus jeune, j'aurais pu répondre que j'irais vivre au Nicaragua, là, des affaires comme ça, mais pour avoir voyagé, j'aime voyager, mais je vis vraiment bien dans mon petit Montréal chez moi.
Ouais. Et il y a toujours le festival d'humour aussi à Montréal l'été.
Et juste pour rire, oui, mais après, c'est pas pour le festival.
Ah non, moi, je pensais, parce que j'étais déjà en train de programmer mes vacances, en fait. Je me suis dit,
Oui, il y a le festival au mois de juillet, le festival d'humour.
Mais tu recommandes plus juste pour rire ou le Fringe?
Ben, je recommande le Fringe, bien sûr.
Ah ouais, les Fringe, ouais.
Juste pour rire, ça va, c'est cool, mais tu sais, c'est un gros festival, c'est un peu comme Montreux, mais sur un mois.
Ouais, des stars,
c'est
des gros
shows, des galas, puis il y a des trucs qui se font en off qui sont cool, il y a vraiment une belle, le Zoo Fest, il y a une belle programmation. Moi, après ça, peut-être que je suis rendue blasée juste pour rire parce que je le connais depuis des années, puis mais tu sais, c'est cool l'été de voir tous les amis humoristes converger, d'aller voir des spectacles. Mais non, moi, c'est sûr que le Fringe, pour moi... Mais après, c'est parce que ça reste une expérience comme plus exotique. Là.
Ouais.
C'est plus cool. Mais
c'est peut-être plus fou, peut-être
c'est
moins.
C'est plus fou, mais après, tu sais, en humour francophone, moi, je te souhaite de venir à Montréal. Après, t'es même pas obligé de venir pendant les festivals. Il y a toujours des soirées d'humour partout.
Ah, mais je vais venir de fou.
Ouais, absolument.
Ah, ouais.
Absolument. C'est vraiment cool. Ouais, j'adore ma ville. Je ne me verrais pas habiter nulle part ailleurs. Toi, tu te verrais habiter ailleurs? Pardon, excuse-moi, je te retourne la question.
Ce que tu décris, je ressens un attachement à Paris.
Mm-hmm.
Par contre, c'est pas cool.
Non.
N'est pas l'adjectif qui me viendrait pour décrire. Je pense que c'est l'extrême. Je pense que à Paris, c'est tellement l'inverse de cool que j'ai pas une seconde pour me mettre dans mon fauteuil et vraiment chiller avec mon chat et bouquiner. J'ai l'impression que c'est impossible.
Ouais.
J'ai l'impression que ça, j'arrive quand je suis en vacances, tu vois, à d'autres endroits. J'ai l'impression que c'est une ville qui est bien pour travailler, mais en fait...
pas pour relaxer, ouais.
Bah, je sais qu'il y a des jardins, je sais qu'il y a le bois de Vincennes, etc. Et
c'est
j'y
incroyable.
Vais de temps en temps, mais c'est beau, mais c'est très rare que... J'ai l'impression que ça va un peu à toute allure et qu'il y a un énorme stress et que c'est pas et que ça, et que je pense que c'est même dans l'architecture quand même c'est petit, c'est serré,
ouais,
les gens
exact.
T'es à vélo, les gens veulent te tuer.
Ouais non,
tout
c'est
temps,
quand même
à
assez
seconde,
fou, oui.
Tu vois. Et donc c'est pas donc parfois je pense que j'aimerais bien scinder ma vie en deux et pouvoir m'enfuir et aller dans un autre endroit de France, dans un autre espace-temps où je puisse être moins comme ça.
C'est vrai que la ville, elle est stressante ici quand même.
Ouais.
C'est stressant. Ouais.
Très.
Oui, oui.
Et tel qu'on m'a décrit Montréal, en effet, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que tu peux avoir à la fois le travail et à la fois une qualité de vie.
Oui, quand même, c'est moins cher.
Ouais, ouais, c'est déjà moins cher.
C'est un peu moins cher.
Ouais,
c'est là, vraiment c'est très plus relax. Cher. C'est moins, on est moins, c'est moins populeux aussi. Ouais. C'est, ouais, c'est un peu plus tranquille.
C'est tellement cher. Paris, tu sais, parfois l'autre jour, je vais chez un ami dentiste qui me donne du produit blanchiment gratos, mm-hmm. tu vois, donc pour mon émission de mardi. Ouais. Je sors et bon, certes, c'était Madeleine, mais quand même, je rentre dans une pâtisserie et je demande du chocolat, juste des, tu sais, des petits bouts, un bout de chocolat avec des noisettes dedans. 18 euros.
Pardon?
18 Pardon? Euros.
C'est une épicerie, ça, genre.
Mais c'était une chocolaterie, mais je me disais...
Non, mais tu peux t'acheter comme... Avec 18 euros, t'as des repas.
Au restaurant. Ouais. Enfin, tu vois.
Ouais.
Mais même quand je vais dans un resto japonais, maintenant, c'est tout de suite 25 balles.
Ouais, ouais.
Tu vois, non, pour déjeuner, fou. Quoi. Mais, donc, c'est vrai que ça te met quand même tout le temps dans un état de tension.
Ouais.
Parce que t'as tout le temps l'impression de te faire entuber.
Ouais,
t'as jamais l'impression de gagner assez.
Non, c'est sûr.
Donc, en fait, ça te tend quand même, tu vois, ce truc de... Ça tend les relations de travail, puisque les patrons détestent leurs employés, les employés détestent leurs patrons.
Enfin, ouais, oui, non, non, tout le monde est dans un état de stress constant, on dirait.
Ouais, ouais, ouais. Donc bon, c'est quand même particulier. Après, j'adore la culture et j'adore le fait de voir des films, d'aller dans des cinémas. J'adore le fait que mes amis sont là, ma famille est là et que je trouve ça beau aussi, tu vois. Mais parfois, partir... Et en effet, le sud, moi, c'est l'Italie, où l'Italie, j'ai vraiment ce truc de Dolce Vita. Je sens dans l'air un truc lié au temps.
Ouais.
Où le temps...
Et passe plus lentement.
Et c'est bien.
Oui, c'est super.
C'est agréable.
Ouais. On vieillit moins vite.
Clairement. Ce que tu détestes par-dessus tout?
Attends, je cherche le bon mot, là. Mais c'est les gens qui sont inconscients des autres. C'est pas nécessairement l'égoïsme. C'est l'espèce de... Moi, là, je tiens la porte quand quelqu'un est derrière, je sors, je laisse sortir les gens du métro avant de rentrer.
L'impolitesse?
Oui, l'impolitesse, mais c'est au-delà, c'est l'insouciance, en fait. Je n'aime pas l'insouciance. Ça m'insupporte. Les humains qui sont capables de vivre en ne pensant qu'à leur chemin. C'est-à-dire que même moi, quand je suis pressée, ça devient jamais que pour moi. Je suis consciente de la personne derrière. Quand les gens qui marchent à 3 de large sur le trottoir, ça me tape.
Parce qu'il
y a des gens qui vont arriver dans l'autre sens, ils bougent même pas.
Ouais.
L'insouciance. Moi, je suis constamment consciente de l'autre. Puis si ça m'arrive une fois que je suis pas consciente de l'autre, je me sens tellement mal, puis je me confonds en excuses. Mais moi, c'est les gens qui dépassent dans la queue, les gens qui...
Oh, wow.
Genre, je suis vraiment... Ça me fait de la peine au plus profond. L'insouciance. Les gens qui sont capables de pas réaliser sur une base volontaire qu'il y a des autres autour qui ont aussi une vie
barge.
Qui est importante dans leur... T'sais.
C'est ouf, moi ça me rend barge. Les gens sur le trottoir, tu sais, les petites le sentiment d'impunité, de supériorité, de deux familles qui passent et qui sont là et qui... Ah ouais, moi ça m'a fait ça la dernière...
Amis
moi
qui
ça
marchent
me rend
lentement.
Super violente.
Hein. Oui, moi aussi.
Parce que c'était la nouvelle scène, je sais pas, donc ça devait être deux familles bourgeoises le week-end qui se prennent dans le 5e et qui remontent les escaliers, mais ils occupent
ils tous
les escaliers.
La place.
Et moi j'avais envie de shooter dans un de leurs gamins.
Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Après ça, l'autre affaire que j'aime pas, c'est la violence envers les enfants. Mais juste avant, c'est...
D'abord la politesse, c'est mal.
Oui.
Et ensuite, la violence envers les enfants, c'est mal aussi.
C'est juste la base. D'être conscient. Les gens qui s'arrêtent en plein milieu du trottoir en cercle pour parler.
Enfer.
Il y a des gens qui circulent.
Hello.
Oh non, les gens qui ne se lèvent pas pour laisser une vieille dame s'asseoir dans le métro.
Bah, terrible.
Ils font semblant qu'ils n'ont pas vu.
Ouais.
Ah, ça me dégueule.
C'est horrible.
Non, c'est ça qui me dégueule le plus, moi.
Ah ouais. Moi, l'autre jour, j'ai gueulé sur une femme dans le train, mais parce qu'elle, en fait, elle a pris son téléphone, elle a répondu à un appel, alors qu'il y avait un silence, tu vois. Un beau silence de... C'est ça, finalement, aussi, vivre en société. Tu vois, il y a vraiment des expériences dans le train où on est tous là. Et c'est ça, ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'humain, peut-être, c'est savoir se respecter.
Exact.
Et elle a pris son appel, elle va « Allô, Catherine ?»
Non, exact. Moi, quand je parle au téléphone en public, je suis comme « Allô, je peux pas parler longtemps parce que je me sens toujours mal. »
Elle a réveillé le mec qui était à côté d'elle, quoi.
Oh my God.
Et je lui ai dit, donc résultat, je pense que j'ai contribué aussi Parce que j'ai fait du bruit derrière.
Oui.
J'ai fait, là, vous avez réveillé tout le monde. Il dormait et tout. Et puis, je voyais que le mec n'avait pas forcément envie de rentrer dans un conflit.
Non.
Et qui était en mode, laisse-moi en dehors de ça. Et oh que moi, Dieu. Mon acte n'était pas complètement désintéressé parce qu'ensuite, je regardais tout le monde en mode, oh, je suis la sauveuse.
Bravo, ouais. J'ai pas eu peur.
Ouais.
Et que les gens. J'ai mis nos limites, tout le monde.
Et en fait, finalement, je pense que les gens avaient réussi un petit peu à continuer à dormir malgré son appel, mais que mon intervention les a définitivement réveillés. Mais bon, oh, elle m'a saoulée. Comment aimerais-tu mourir?
Bon, tout le monde veut mourir d'une façon paisible en dormant, mais moi, je veux que ça se passe. Comment je veux mourir, je sais pas. Si c'est une maladie, je veux que ça soit comme qu'on me la diagnostique vraiment tard, puis c'est trop tard pour faire quoi que ce soit, puis je meurs, puis j'ai pas le choix d'accepter. Je veux pas mourir dans d'atroces. T'sais, je veux pas que ma famille ait le temps de me voir mourir pendant 3 ans. Là, t'sais. Ouais. Fait que je veux. Peu importe. Après, je veux pas mourir. Je veux mourir vite, là, t'sais. Je voudrais mourir vite. Soit dans un grave accident que je me rends compte de rien, ou soit d'une maladie qui m'emporte là, super rapidement. Mais je veux surtout pas, genre, dépérir, t'sais, que les gens aient à s'occuper de moi, que je devienne une tâche. Je veux vraiment pas devenir une tâche pour les gens, t'sais. Moi, si à 75 ans, on me diagnostique un grave cancer, je crois que...
Ciao.
Je crois que ciao, ouais. À moins qu'on me dise, il y a des chances que ça va être facile, vous allez survivre, je crois que je vais faire comme, laissez-moi disparaître. Arrête, là. Je veux vraiment pas devenir une tâche pour personne. Là. C'est chacun son tour, la vie. Puis je veux pas que les gens autour de moi perdent 5 ans à attendre que mémé disparaisse. Là, t'sais, genre, c'est ça. Ouais. Fait que le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Mais ouais.
Je suis d'accord avec toi. Je sais, j'avais vu un film de Haneke qui s'appelle Amour avec Jean-Louis Trintignant. Et comment elle s'appelle cette actrice hyper connue Mais en fait, c'est des vieux. Et en fait, la définition de l'amour selon Haneke, c'est s'accompagner dans la mort et la décrépitude, quoi. Tu vois, et se changer les couches de l'autre. Et je te dis, c'est mon cauchemar.
Ouais.
C'est vraiment pas ma vision de l'amour, quoi.
Non, je sais. Sauf qu'en même temps, c'est le fun aussi de s'imaginer qu'on va avoir quelqu'un pour le restant de la vie. Puis que. Que je veux dire, on va être vieux ensemble.
Ouais,
après,
c'est
je veux
beau
pas
aussi.
Qu'on se mue, tu changes les couches, là, ça tue un peu l'amour.
Ça, c'est dur.
Ouais.
Ah, ça, je pense que c'est dur. Ouais.
Ouais.
En tout cas, c'est dur d'avoir une activité sexuelle juste après.
À moins qu'on soit vraiment fétiche de ça.
Fétiche gâteau. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un délire.
Ouais. Mais non, je vais partir vite. Ouais.
Et pour finir, ton état d'esprit actuel?
Plénitude, bonheur, fierté. Ouais, vraiment. En ce moment, je suis vraiment dans une bonne zone. Avant de partir ici, j'étais super stressée, genre, de mon spectacle. J'étais vraiment... j'ai pleuré là, dans la voiture en partant à l'aéroport avec mon copain parce que... j'étais comme, tout à coup que ça se passe pas bien. Puis là, je vais m'ennuyer. Puis finalement, premier spectacle en arrivant ici, tout a bien été. Puis la tournée s'est bien passée. Puis hier, c'était trop cool. Puis, fait que je suis vraiment remplie d'un sentiment de fierté qui me donne l'impression que tout est possible en ce moment. Donc c'est ça mon état d'esprit.
Merci Virginie.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Virginie. Je fais cette outro après avoir encore bouffé 60 Ferrero Rocher. J'ai tellement grossi. Ah, faut que j'arrête d'acheter ces merdes. Après les galères d'appart, c'est encore mon vélo qui fait des siennes, mon vélo électrique qui marchotait enfin et dont le pneu est maintenant pété. J'ai tellement pas le temps d'aller le faire réparer. Je vous laisse, je dois filer. Juste à un moment, je dis fétiche scato, hein, et pas fétiche scato. Au moment des couches. Je vous embrasse très fort. J'ai très envie d'aller l'été prochain au Festival d'Édimbourg, de peut-être traduire mon prochain spectacle en anglais et d'ici là, de venir jouer l'actuel à Montréal et de revoir Virginie. Bisous!
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.